effectivement assez extraordinaire. Frédéric a commencé sa carrière, peut-être que je la terminerai sous une forme ou sous une autre, je ne sais pas, mais ce sera difficile d'en partir en tout cas. Mais c'est un plaisir pour le muséum que de vous recevoir, puisque effectivement on a une situation très particulière. Nous avons un statut d'université et pour vous faire sourire tout de suite, nous gérons 400 étudiants, ce qui évidemment est très anecdotique au regard de nos activités. Nous n'avons pas été confrontés à la démographie étudiante galopante, voilà, mais nous partageons néanmoins un certain nombre de vos problématiques. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée parmi nous et je redonne immédiatement la parole à mes collègues.
Un dernier mot, enfin quelques mots encore, donc simplement pour les collègues de l'association, vous rappeler la tenue de notre colloque au mois de juin, donc à l'université de Rennes, à Rennes 1 et Rennes 2. Voilà, inscrivez-vous et essayons d'être aussi nombreux, d'ailleurs d'être aussi nombreux à minima, autant qu'aujourd'hui en tous les cas. Donc je ne peux que vous inviter vivement, voilà, à aller sur le lien d'inscription. Et puis, ultime point que je souhaitais évoquer, c'est un remerciement tout particulier pour une de nos collègues. Alors, je la cherche du regard. Si je la vois, elle est en face de moi. C'est Marilène Meston de Rennes. Voilà, donc l'association, puisque tu es passée à une nouvelle étape de ta vie, au sens large du terme, hein, on peut dire ça comme ça, Marilène, je ne sais pas, voilà, je vais euphémiser les choses, comme on dit, voilà. Et en tous les cas, puisque tu quittes à la fois les fonctions que tu exerçais jusqu'à présent au Collège de France, pas si loin d'ici, on voulait t'apporter un témoignage de sympathie, de reconnaissance pour tout ce que tu as fait au sein de l'association, notamment ton implication dans le réseau Humane, et puis pour ton accueil assez fréquent dans les locaux fort sympathiques, je dois dire, du Collège de France, voilà, au pied d'une montagne que tu chéris, je sais, la montagne Sainte-Geneviève, voilà. Si tu veux bien venir une minute, voilà, à la chaire, de manière à ce que tu ne t'y attendais pas, ben c'est le principe même des surprises, Marilène.
Voilà, c'était la surprise.
Un petit témoignage de sympathie, voilà, au nom de l'association.
Merci.
Voilà.
Ah oui, il y en a qui savent.
Ah ben on a des sources particulièrement pertinentes, Marilène, oui.
Oh, tant mieux, c'est bien.
Celui de ce matin est resté dans le sac, mais j'en ai toujours en effet un sur moi. Bon. Il est magnifique, je montre quand même, ça vaut le coup.
Ah bah oui, écoute. Hein.
Voilà. Oui, bah il faut attendre la retraite, quoi. Donc écoute. Merci Président.
Bah, surtout merci aux collègues et merci à l'association.
Merci aux collègues, surtout que les Christian Lacroix se font rares depuis qu'il a décidé de se consacrer plutôt aux costumes de théâtre et d'opéra. De moins en moins, c'est une pièce de collection. Mais je voulais d'abord simplement vous dire deux choses. D'abord que j'étais très heureuse et très fière d'appartenir à la magnifique corporation des DGS. Puisque j'ai commencé mes premiers pas dans ce métier en 2002 en devenant DGS de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm.
Tu étais plus haut dans la montagne donc.
Voilà. Et d'ailleurs, dès la première année de mes fonctions, j'ai reçu la Cour des comptes. Donc,
voilà. Privilège. Quel privilège, Marilène, décidément.
Ça marque toujours un début de carrière dans ces conditions-là. Et puis donc ensuite au Collège de France, donc je n'ai fait que deux établissements, moi qui prône la mobilité des cadres, je n'ai pas été très exemplaire, je l'avoue. Mais voilà, et je voulais vous dire que j'ai vraiment vu en 20 ans, parce que ça fait 20 ans en fait, évoluer ses fonctions, et que je trouve que vraiment, vous avez parlé d'un domaine qui est la recherche, alors moi j'ai la chance, je ne sais pas comment il faut dire, mais au Collège de France, d'être complètement impliqué dans la recherche, il n'y a pas de direction de la recherche, il n'y a pas de DP recherche, etc. Donc toute la recherche est arrimée au DGS, en quelque sorte, en termes d'organisation, hein, en termes de contenu, bien sûr. Mais j'ai vraiment vu évoluer cette profession. Je trouve que vraiment, en 20 ans, des pas de géants ont été franchis, et notamment dans le rapport des DGS à la stratégie des institutions et au niveau de considération dont ils jouissent dans leurs établissements et à l'extérieur de leurs établissements, et j'ai trouvé ça absolument magnifique. Et peut-être qu'en 2002, je n'aurais pas conseillé forcément à des camarades d'embrasser cette carrière. Mais maintenant, je pense que je le ferai extrêmement volontiers. Donc j'en profite pour faire un tout petit peu de publicité pour le poste de DGS du Collège de France. Comme vous l'avez compris, c'est libéré. Je vous dis avec beaucoup de franchise et de transparence, le poste n'est pas préempté. L'administrateur du Collège de France est une personnalité extrêmement ouverte. Il n'a pas d'idées préconçues. Il cherche simplement une belle personnalité investie qui va porter avec lui l'établissement le mieux possible. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous avez mon numéro de téléphone et mes coordonnées. J'ai été vraiment très fière de faire partie des DGS et vraiment, ça me touche beaucoup. Merci Président, merci cher collègue.
Merci Marie-Laure.
Merci. Maintenant, je donne la parole à Louis Gauthier, président de la troisième chambre de la Cour des comptes.
Merci beaucoup, monsieur le président, cher Frédéric Dehan, monsieur Catard, monsieur Skoulios qui nous accueille ici et par son entremise, mes salutations à votre président Bruno David. Mesdames et messieurs, je suis très heureux à la fois de l'initiative qui a été prise par l'association, par Philippe Rousselot, qui est le président de la première section de la troisième chambre, et par Emmanuel Roux de ce séminaire qui porte sur nos relations croisées, et puis de l'occasion qui m'est donnée finalement de m'exprimer à votre invitation en introduction de ce séminaire. Nous vous connaissons beaucoup parce que nous vous scrutons, nous vous regardons, c'est notre métier. C'est bien d'une certaine manière aussi qu'en sens inverse vous nous connaissiez mieux à un moment où nos deux mondes, alors le vôtre il est en évolution permanente et Madame Reston de même à travers l'évocation de sa carrière l'indiquait, c'est sûr que depuis la loi LRU et même avant, le monde universitaire est un monde en changement et encore en évolution, et vous y reviendrez d'ailleurs tout à l'heure dans votre discussion peut-être sur la note structurelle que nous avons publié il y a l'hiver dernier, c'est un monde qui est encore amené à franchir de nouvelles étapes. Et évidemment, elle ne peut le faire, et bien sûr, qu'avec l'aiguillon, l'initiative, la direction des instances élues, des présidents d'université. Mais toute cette œuvre de réforme repose sur vous dans son accomplissement, que soient les étapes passées ou évidemment l'étape future qui vous attend. Donc, et nous, de la même manière, la Cour aborde une nouvelle étape à travers soit des réformes juridiques qui viennent d'être passées, soit à travers des changements organisationnels, des réformes internes sur la façon de faire évoluer son travail et ses contrôles. Et donc, c'est bien, je pense, qu'on ait cette occasion de discuter, puisque le paysage est un paysage qui évolue. Et je me réjouis par ailleurs du caractère fructueux, très positif des relations qui ont été instituées. Je pense que ça fait partie aussi peut-être d'un changement de regard dans le rapport entre contrôleurs et contrôlés. Et de nouvelles dispositions d'esprit, y compris dans nos méthodes à nous, pour travailler avec les organismes qui sont placés sous notre contrôle. Les enjeux sont majeurs dans ce secteur. Je ne vais pas vous le rappeler parce que vous connaissez le monde universitaire très bien, mais il s'agit de l'avenir de notre société, il s'agit de l'avenir de notre jeunesse. Ce sont des enjeux qui, d'un point de vue des finances publiques, sont considérables, 1,45% du PIB, 2,5 millions d'étudiants, dont 1,6 million qui sont scolarisés dans les universités. Donc ce sont des enjeux absolument considérables en termes de gestion publique, et puis évidemment en termes de mission qui est donnée par la société et pour l'instruction et la formation de notre jeunesse. Pour la Cour, je disais qu'elle aborde une étape un peu nouvelle de sa vie institutionnelle, de ses pratiques aussi, de sa vie institutionnelle, mais ça vous concerne, puisque par une ordonnance, ça a été finalement le choix qui a été retenu. Je pense que, personnellement, comme citoyen, peut-être qu'on aurait pu avoir un débat au Parlement sur cette question, parce que c'est une révolution, mais l'ordonnance du 23 mars 2022, qui a complètement bouleversé le régime de la responsabilité des gestionnaires publics, nous amène à envisager autrement les formes de contrôle, en tout cas de la régularité. Le régime ancien, alors la séparation ordonnateur-comptable reste, le régime ancien qui faisait peser au départ pratiquement tout l'examen de la régularité sur la caisse du comptable, et puis par extension s'intéresser à travers les problématiques de gestion de fête ou à travers les différents cours de discipline budgétaire et financière, la responsabilité de l'ordonnateur devait, je pense, évoluer parce que, à la fois, la nature des responsabilités des comptables dans les établissements, l'informatisation faisait que souvent les frontières étaient un peu indistinctes et permettaient mal de saisir la responsabilité réellement là où elle s'était exercée au départ. Et donc, je pense qu'il y avait un risque. Selon l'adage latin de Cicéron, du summum ius et summa injuria. Je me retourne, Philippe hoche la tête, parce que Philippe, vous ne le savez pas, que dans son jardin secret, et, je ne sais pas si tu es président ou secrétaire général de la société, c'est ça, la Société internationale des amis de Cicéron, donc voilà, si vous voulez parler de Cicéron, c'est avec lui, mais tout à l'heure. Et donc, oui, il y avait ce risque d'une jurisprudence quasiment byzantine, extrêmement complexe, etc. Et le sentiment que pouvaient avoir les comptables à travers à la fois cette construction et le fait que, je dirais, on s'occupe d'eux et eux le ressentaient comme on s'acharne sur eux sans forcément que la responsabilité de l'ordonnateur puisse être attrait aussi facilement. Et donc ce changement, à mon avis, il était logique. Ce qu'il y a, c'est que nous sommes au pied du mur. Je ne sais pas encore comment, à partir de ces textes, la Cour a créé, vous le savez, une chambre spécifique qui aura en charge le jugement. Et nous-mêmes, comme troisième chambre, nous resterons une chambre d'instruction vis-à-vis des organismes que nous contrôlons. Donc un changement majeur pour nous qui s'accompagne d'évolution dans la pratique que je trouve judicieuse, et j'ai souhaité que la Chambre, à travers ses trois sections, puisque la Chambre comprend une section enseignement supérieur et recherche, une section également aussi importante pour, vu les enjeux pour notre société et quand même les difficultés de qualification de notre système scolaire aujourd'hui, l'éducation nationale, la jeunesse, les sports, on contrôle aujourd'hui la mise en place des JO, et puis la troisième section, culture et communication. De nouvelles pratiques, dont la troisième chambre est la chambre un peu expérimentale, à travers la mise en place d'audits flash, c'est-à-dire d'audits extrêmement rapides qui sont réalisés suite à un signalement, suite à une demande de l'autorité ministérielle ou à la suite simplement d'un fait d'actualité qui nous est signalé. Et puis ces notes structurelles, vous aurez l'occasion d'y revenir, qui sont plutôt, elles, des notes de synthèse, qui s'appuient sur toute une série de travaux que nous avons effectués dans le passé, qui nous ont amenés, là encore, à l'automne, à faire des notes structurelles dans pratiquement chacun des secteurs, l'éducation nationale, qui a eu aussi beaucoup de retentissement, la note culture également, et puis cette note sur l'enseignement supérieur et la recherche, sur lequel vous aurez, je pense, l'occasion de rediscuter tout à l'heure. Pour moi, c'était important de rejoindre ces exercices nouveaux, parce que, notamment dans votre secteur, nous avons la difficulté de nous adresser ou de contrôler des établissements publics administratifs pour lesquels l'obligation de la communication, de la publication et de la transparence ne se fait pas. Et c'est vrai qu'on est dans une situation que je trouve assez paradoxale au regard de l'intérêt légitime du citoyen à en connaître, mais aussi au regard de la diffusion des bonnes pratiques Nos contrôles ne sont pas que des contrôles sanctions. Ce sont des contrôles d'évaluation et puis ce sont aussi des contrôles qui, quelquefois, font apparaître et souvent de bonnes pratiques et leur diffusion serait utile et même quelquefois des erreurs ou des difficultés de fonctionnement. Leur connaissance et la manière dont elles vont être résolues seraient utiles à tous. Malheureusement, on est dans un domaine où la publicité sur les rapports ou sur les conclusions ou les recommandations générales ne se fait pas. Le législateur a prévu que, par exemple, en matière qu'une petite association qui fait appel à la générosité publique, même si elle a une surface assez faible, c'est systématiquement public. Un établissement public industriel et commercial, c'est public. Et puis les EPA ne le sont pas. Et donc les moyens, justement, à travers ces notes de synthèse qui permettaient de valoriser un certain nombre de leçons d'enseignements généraux tirés par la Cour au fur et à mesure de ces contrôles organiques. Et il y a peu d'observateurs, je dirais, à la fois aussi vigilants, aussi constants et qui ont sans doute dans l'appareil de l'État une connaissance aussi importante de ce secteur. Et qui ne soit pas, impliqué comme peut l'être le ministère lui-même. Et donc, c'est vrai que c'était important qu'on ait ce type de nouveaux produits qui nous permettent, et notamment dans un secteur où la diffusion de l'information ne se fait pas spontanément à travers la publication systématique des rapports, jouer son rôle. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que la Cour, elle a d'abord une fonction de vérificateur, d'auditeur. D'application de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme qui fait que tout citoyen le droit de demander compte à un agent public de son administration, selon la formule célèbre. Mais je dirais, c'est un travail essentiel, c'est un travail, j'allais dire, primordial. Mais c'est la fonction historique de la Cour, mais elle en a d'autres. Et je pense que dans le rapport de contrôleur à contrôlé, surtout dans ces secteurs, ce qui est intéressant, et c'est ce que cette réunion d'ailleurs illustre, c'est la maïeutique. Le fait que nous questionnons et à travers la contradiction, à travers l'échange, nous enrichissons mutuellement de cette discussion. C'est probablement ce qu'il y a de plus important pour faire évoluer les choses, pour faire évoluer les pratiques de gestion administrative et plus fondamentalement ce secteur dont je disais qu'il était lui-même au milieu du guet. Et dans ce travail de maïeutique, alors c'est vrai qu'on s'est lancé, c'était la première fois qu'on faisait cette note structurelle, un tout petit peu sans filet. C'est un exercice en plus de ça, parce que c'est comme ça que la Cour l'avait conçu, très ramassé, assez synthétique, quelques dizaines de pas. Enfin, et donc, il n'y a pas la sophistication, peut-être toutes les nuances, et sur certains sujets... Alors, il y a pu avoir, je pense par exemple, on a eu un séminaire très intéressant, parce qu'il n'y a pas qu'avec vous qu'on pratique la maïeutique, mais aussi avec le secteur de la recherche. Donc on avait un séminaire il y a quelques jours avec le CNRS. C'est sûr qu'il y a eu des interrogations sur ce que cette note dit sur les UMR. On ne change pas de point de vue, mais on voit bien que peut-être qu'une entrée dans l'atmosphère plus prudente, redisant bien ce que notamment les grandes institutions de recherche, l'INSERM, le CNRS, jouent. Et la Cour n'envisageait pas, à travers la préconisation qu'elle fait, de modifier cette organisation des grands opérateurs nationaux, mais en revanche, de l'adapter très profondément, en tout cas dans les implications de la coopération avec l'université. Et donc, cette note, à mon avis, elle avait l'intérêt de passer un message. Je crois qu'il a été reçu. Il a été d'ailleurs très décliné, là encore, dans la 50e anniversaire de la réunion des présidents de la CPU, aujourd'hui France Université. La note a été, je crois, bien détaillée, bien reçue, bien analysée. C'est-à-dire qu'il faut passer à une seconde étape de l'autonomie des universités, vers plus de liberté, vers plus de responsabilité, avec au fond trois grandes orientations. Approfondir l'autonomie de gestion, insister sur la réussite pour les étudiants, parce que ça paraît quelque chose d'essentiel. Je disais tout à l'heure que nos travaux ne sont pas publics quand c'est des travaux organiques, mais on a quand même publié récemment, notamment au rapport public annuel l'année dernière, un chapitre sur la vie étudiante, et notamment pendant la crise Covid. Et bon, montrons quand même bien des difficultés à l'accueil des étudiants, à l'accompagnement des étudiants. C'est un sujet très, évidemment très important. Autonomie de gestion, je le disais tout à l'heure, réussite des étudiants. Et puis, au fond, assumer la différenciation. Là encore, on voit bien dans le passage d'une étape à l'autre, par exemple au travers l'analyse que la Cour a faite dans un rapport public thématique, celui-là consacré à Campus Condorcet, que les réarticulations, quelquefois un peu, comment dirais-je, un peu... à la fois un grand projet national et puis finalement pas une grande vision de ce que doit être ce projet peut poser des difficultés. On est ici dans la grande galerie de l'évolution, juste à côté. C'est vrai qu'il y a eu un choix très darwinien de favoriser que le meilleur gagne, que les concours pour obtenir des subventions ou des attributions de crédit à la recherche. Ça a été une façon de dire prenez-vous en main, faites vos associations. Et puis finalement, on voit bien que plusieurs années après, ces presses, puis ces communes n'ont pas forcément fonctionné, puis ces pôles de regroupement comme Campus Condorcet, on se demande un peu vers quoi finalement ils vont, qu'est-ce qu'ils produisent en termes de mutualisation. Et donc, ce que dit la Cour, c'est un peu le modèle, j'allais dire, du muséum, c'est-à-dire qu'il y a des différences. Il y a des différences entre les établissements, il faut les assumer, il ne faut pas forcer les choses. Mais au fond, il y a un peu besoin d'un classement de méthode cladistique, puisque c'est le choix qui a été de réorganisation de cette grande galerie de l'évolution. À partir d'un certain moment, il y a des éléments d'évolution qui font sens, qui poussent à des convergences. Certes, il ne faut pas les forcer, mais ça ne peut pas être toujours dans la plus grande des anarchies, parce qu'autrement, ou alors des regroupements forcés, parce qu'autrement, ça ne marche pas. Et on voit que ce qui a été créé, finalement, est amené à se dissoudre quelques années après. Et dans cette différenciation, c'est vrai que la Cour passe un message dans la note. La priorité de la recherche a été très affirmée. La problématique de la formation est essentielle. Je disais quand même qu'il s'agisse de la vie étudiante, qu'il s'agisse donc... Ce système qui a encouragé, je dirais, les classements à l'international, les évaluations de jury, doit aussi être attentif aujourd'hui pour certaines universités qui sont des universités de formation, et certaines mixent les deux, mais avec des enjeux. Quand vous regardez ce qu'est une université comme Paris 1 qu'on a contrôlé, ou comme vous regardez ce qu'est une université comme Nanterre, les problèmes en termes d'immobilier, de locaux, etc., sont absolument considérables. Donc, il nous semble que le ministère, dans ses choix, doit aussi tenir compte des problématiques de la formation, reconnaître, assumer la différence entre les universités. Et le dernier message, je l'ai déjà un peu évoqué, je ne vais pas y revenir, c'était celui autour de l'organisation... de la recherche et notamment de la recherche universitaire, et c'est la problématique des UMR. Je crois que vous aurez l'occasion d'y revenir. Je crois que j'ai parlé assez longtemps dans ce propos introductif pour vous laisser la parole à ceux qui ont préparé ce séminaire et qui vont revenir, bien sûr, soit à travers leur présentation de manière plus précise, soit dans la discussion avec vous, dans l'échange sur ces points que j'ai abordés de manière liminaire. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci Louis Gauthier pour cette présentation que nous allons maintenant approfondir avec Philippe Rousselot et Emmanuel Roux. Merci beaucoup.
Merci. Je vais assister à vos échanges pendant un peu de temps. Mais après, j'ai des engagements, donc je vous quitterai. Comme ça, vous serez encore plus libre d'échanger, de faire fond sur Philippe et Emmanuel tout à l'heure.
Bien, ben je vais donner la parole donc à Philippe Rousselot et Emmanuel Roux avec une présentation qui s'affichera sur ce grand écran.
Grand écran.
Avec la télécommande.
On appuie sur.
Alors, c'est Emmanuel qui a eu le mode d'emploi.
Voilà, c'est ça. Non. Ah, c'est peut-être le contraire.
Ah, le technicien arrive, merci.
Ah voilà.
C'est bon.
C'est lequel ?
Merci.
Là, d'accord.
Merci beaucoup, hein, ils ont trouvé.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vais vous préparer un support sur lequel on pourra passer plus ou moins rapidement. Et n'hésitez pas, Jean-Michel, à sortir le knout pour que on presse ou au contraire, on ralentisse. Ça, c'est... Un mot quand même sur la première section chargée au sein de la troisième chambre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous sommes 33. 33, c'est un effectif mixte puisqu'il comprend des conseillers maîtres, des magistrats, conseillers référendaires ou auditeurs, des conseillers référendaires en service extraordinaire qui sont des rapporteurs non magistrats et des vérificateurs des juridictions financières. Certains conseillers maîtres, un assez grand nombre d'ailleurs, rapportent également, ce qui fait que la force de rapport est assez significative. Toutefois, on pourrait discuter longtemps de l'adéquation entre cet effectif et la charge. Je ne vais pas vous décrire la composition exacte d'une chambre, mais je vous la présente sous une forme conceptuelle. Et en vérité, c'est la meilleure façon de faire. Il y a dans une chambre des équipes de contrôle qui sont composées donc de magistrats, de conseillers référendaires en service extraordinaire et de vérificateurs des juridictions financières. Ils sont chargés d'instruire, d'écrire et de présenter devant la formation délibérante qui, elle, est composée de conseillers maîtres, des rapports, qui sont des rapports d'instruction. Le travail de la formation délibérante est très important, puisqu'il ne se contente pas d'écouter. C'est un travail qui apporte une plus-value très significative, aussi bien sur la forme que sur le fond. On n'a encore jamais vu, en tout cas pas dans ma mémoire, de 30 ans de cours, un rapport passer en délibéré sans qu'ils subissent un assez grand nombre de changements. Ils peuvent être parfois mineurs, mais la norme, c'est que ce sont plutôt des changements significatifs qui sont issus de la discussion qui se noue autour de ce rapport. Et à l'issue du délibéré, le rapport devient provisoire et il a pour auteur la Cour des comptes. Les rapporteurs perdent leur titre de propriété à l'intérieur de la Cour. Et ce rapport provisoire qui vous est adressé quand ça concerne une université ou un établissement d'enseignement supérieur revient après contradiction écrite et ce sont les mêmes rapporteurs qui vont à nouveau, devant un délibéré, présenter les résultats de cette contradiction qui donnera lieu à un rapport définitif. Un mot sur les métiers de la Cour. Je commence par le bas pour passer sur la certification des comptes de l'État. La troisième chambre n'étant pas concernée, permettez-moi de passer. L'évaluation des politiques publiques est une nouvelle donne qui est assez récente, issue de la dernière réforme constitutionnelle et qui attribue à la Cour, dans l'article 47.2 de la Constitution, la charge explicite de mener des évaluations de politiques publiques. Donc il nous a fallu quelques années pour nous accoutumer à cette nouvelle mission, qui est techniquement assez particulière. Sachez que, dorénavant, la Cour souhaite pouvoir consacrer 20% de sa charge de travail à ce mode d'investigation et donc l'évaluation de politique publique. Et puis il y a les contrôles que vous connaissez si bien, puisque c'est principalement par ce biais que nous sommes en relation. Bon, alors, je dirais qu'il y a deux types de contrôle. Celui qui mérite bien son nom et que nous appelons dans notre jargon le contrôle organique, le contrôle d'une université, par exemple. Et puis, les enquêtes, qui, elles, sont beaucoup plus thématiques, auxquelles vous êtes très fréquemment associés. Je sais que vous avez tous reçu, il y a peu de temps, un questionnaire. Donc, voici le principal coupable. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous allez recevoir tout à l'heure un autre questionnaire. Voilà. Et je mesure que pour quelqu'un comme M. Dedan, qui a un contrôle de la Cour, sans parler d'autres dont je dirai un mot tout à l'heure, plus tous ces questionnaires, on est parfaitement conscient de la charge de travail que ça représente. Difficile de faire mieux, parfois. Et on espère se faire pardonner en produisant un travail qui, à la fin... C'est peut-être de vous intéresser. Et enfin, il y a le travail du jugement dont le président Gauthier vous a dit un mot tout à l'heure et sur lequel je reviendrai peut-être une minute dans quelques instants. En tout état de cause, j'ai laissé pour le plaisir le jugement des comptes des comptables publics en le rayant puisque à partir du 1er janvier, c'est fini. On y revient tout à l'heure. Je vais passer sur ce diapo. Un mot... Un mot sur la programmation, si vous voulez bien. Sachez qu'à la première section, le premier élément qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons dans notre chalut 250 opérateurs. Ce qui fait, pour la section enseignement supérieur et recherche, un peu plus de 20% des opérateurs de l'État. Et c'est donc une charge. C'est une donnée. Et comme vous le savez, la Cour a le privilège de choisir elle-même sa programmation. À quelques exceptions près, qui sont en particulier les quelques enquêtes que le Parlement, Assemblée nationale ou Sénat, peuvent demander à la Cour chaque année et qui donnent lieu à une demi-douzaine d'enquêtes, mais pour l'ensemble de la Cour, demandées par le Parlement. Il arrive à l'enseignement supérieur et la recherche d'être dans le scope de ces assemblées. Et c'était le cas, par exemple, de l'enquête que nous avons menée sur les droits d'inscription. C'était le cas de l'enquête que nous avons menée sur les très grandes infrastructures de recherche, etc. Donc, pour programmer, ce n'est pas une opération magique, c'est une opération assez difficile. Pour cela, nous disposons de certains outils, à commencer par une matrice d'analyse des risques, dont nous sommes propriétaires, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas de l'extérieur. Nous l'avons montée nous-mêmes à partir des données de la comptabilité publique, des bases de données que nous constituons et que nous interrogeons et reconstituons sous la forme de tableaux d'analyse, de ratios, et qui nous permettent d'avoir une vue indépendante de la santé financière des universités et des établissements en général, indépendante par exemple des ratios que le ministère publie, et donc nos chiffres étant fondés sur les comptes que vous déposez. Donc on a toujours un petit temps de retard tant que vous n'avez pas déposé vos comptes, mais on préfère travailler comme ça sur des éléments qui seront ceux qui après donneront lieu à nos contrôles. Sachez que nous avons toute une série de sollicitations aux extérieurs, des réquisitions de notre parquet général ou du parquet pénal parfois, des signalements. J'aurai l'occasion tout à l'heure de vous dire un mot, je vais le dire maintenant, un mot sur de nouvelles démarches qui se sont produites à la Cour. La première, c'est ce que nous appelons l'enquête citoyenne. Si vous avez eu la curiosité de regarder le site de la Cour des comptes ces dernières semaines, vous avez vu qu'il y a un nouvel onglet qui appelle les citoyens à faire part de leurs propositions de contrôle et d'enquête. Alors, si vous persévérez dans votre curiosité, vous verrez que l'enseignement supérieur et la recherche ne sont pas oubliés. Alors, l'histoire est en train de s'écrire, puisque l'ensemble de ces données seront collectées à la fin de ce mois-ci. Et puis, au début du mois de septembre, la Cour, après en avoir délibéré, retiendra un certain nombre d'enquêtes et de contrôles qui ont eu pour origine cette démarche citoyenne, qui est assez intéressante puisque les motivations des uns et des autres sont assez précises. Il arrive assez fréquemment que les questions posées ne, ne soit pas celle d'un amateur, manifestement.
Oui, c'est ce que j'ai observé.
Nous aurons aussi une plateforme qui n'est pas encore ouverte, mais qui ouvrira bientôt, toujours par le biais de notre plateau informatique, pour les lanceurs d'alerte. Enfin, nous avons notre stock de suivi des observations, puisqu'à chaque fois que nous faisons un contrôle ou une enquête, nous avons des recommandations, des rappels à la loi, etc. Et tout cela est évidemment tenu à jour dans une base de données et nous sert à travailler. J'y reviendrai peut-être dans quelques instants. Je vous ai dit que nous avions 250 opérateurs à contrôler. Alors là, évidemment, c'est extrêmement varié. Ça va de l'opérateur qu'on pourrait qualifier de minuscule à CNRS, INSERM, Université de Lille, enfin, AMU. Donc c'est très varié. Et pour essayer de contraindre tout ça, nous montons des cycles de programmation qui sont annuels, même si dans la pratique, le cycle dure 18 mois, mais il se recouvre avec le suivant, en tuilage. Nous avons achevé il y a 3 ans la recherche en SHS. Nous avons entamé à la suite la recherche en biologie santé. Et cette année, nous sommes sur une thématique ESR et territoire. Voilà, donc on essaie aussi dans notre programmation, au-delà des ratios, des signaux d'alerte tirés de nos propres bases ou qui viennent d'ailleurs, de monter des logiques de contrôle et d'enquête qui d'abord nous aident à durcir à capitaliser mieux nos connaissances et puis peut-être à pouvoir délivrer sous la forme d'une synthèse un message sur une thématique particulière. Notre métier de contrôleur repose sur 3 bases. Je vais aller assez vite, mais sachez que ces 3 concepts qui s'affichent à l'écran forment en vérité l'essentiel de notre vie quotidienne. Ce ne sont pas des mots qu'on sort de temps en temps pour... Non, au contraire, l'indépendance des équipes, l'indépendance de la Cour, pour commencer, qui est tout à fait réelle et vécue quotidiennement comme totalement assurée et jamais mise en péril, s'accommode aussi de l'indépendance des équipes de contrôle, qui, dès lors qu'elles instruisent, ne sont pas appelées à recevoir la moindre consigne de l'extérieur, y compris chez nous. Le principe quasiment sacré de la contradiction. Et enfin, celui d'une redoutable efficacité de la collégialité qui me permet de dire qu'à la Cour, dans l'exercice du métier du contrôle, bien évidemment, personne ne décide seul. Ça n'existe pas. Alors, je laisse de côté le fait qu'on a des chefs de service qui s'occupent de la GRH, de la DRA, notre président de chambre est chef de service de la troisième chambre, mais dans l'exercice que je vous ai présenté tout à l'heure, la relation entre les équipes et la collégialité au moment de délibérer, seul le collectif aboutit à un consensus qui donne pour résultat ce qu'on appelle la position de la Cour. Alors, pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais été contrôlés, et je crois qu'ils sont peu nombreux, un rappel très rapide de nos procédures. Nous ne commençons jamais un contrôle sans une notification. Tout contrôle commence par un entretien de début de contrôle en présence du contre-rapporteur, qui est le magistrat en général capé, conseiller maître en tout état de cause, qui va assurer en permanence du début à la fin le contrôle qualité du travail des rapporteurs. Je vous disais tout à l'heure qu'ils étaient indépendants, ils le sont assurément, mais ils ne sont pas laissés pour autant dans l'obscurité. Ils sont suivis en permanence par un contre-rapporteur qui, au moment du délibéré, parle le premier et présente à la Chambre son avis personnel sur la qualité des travaux qui ont été remis et sur le soin que les rapporteurs ont pris à suivre les procédures. Voilà. Je ne reviens pas sur le nombre de délibérés. Vous avez tous compris qu'il y en a 2 et que tout cela se fait dans le cadre de la contradiction et de la collégialité. Je dirais, pour résumer les choses d'une manière un peu rapide, mais pourtant, je crois, assez juste, que toutes ces procédures, dont vous n'avez ici qu'une esquisse très, très rapide, sont la mise en forme de vos droits. C'est C'est-à-dire que tout est pensé. Ce n'est pas vraiment de la bureaucratie administrante, c'est plutôt une procédure qui est là pour faire en sorte que le contrôlé puisse à tout moment... Et comme vous le savez, lorsque vous vous adressez à tout moment une réclamation, et comme vous le savez, dans toute lettre de notification, nous vous donnons la référence de nos normes professionnelles auxquelles vous pouvez vous référer et qui, bien entendu, reprennent un peu plus en détail d'ailleurs l'essentiel de ce déroulement. Un mot rapide sur les suites données à un contrôle. Alors que vous connaissez tous, pour l'avoir vécu, pour ceux d'entre vous qui l'ont vécu, le rapport définitif qui vous parvient sous la forme d'une lettre signée par le président de chambre avec en annexe le rapport définitif. Et puis il y a d'autres... Alors, comme le disait le président Gauthier tout à l'heure, ce type de rapport n'est pas public. Il est remis directement au président. Et depuis quelques temps, la lettre du président, au-delà de la formule adressant ce document, encourage le président de l'université à faire circuler le dit rapport définitif au sein du conseil d'administration. Et pour la suite, nous avons des suites publiques que vous connaissez, le référé, qui est un document de quelques pages adressé au ministre et au seul ministre, et puis les rapports publics thématiques, les rapports publics annuels, etc. Tout ça, vous le connaissez parfaitement. Voilà, je vais passer peut-être rapidement sur l'ensemble des rapports que nous avons publiés en 2021. Mais enfin, comme vous pouvez le voir sur cette liste, en un an, on arrive à publier plus de 15 rapports thématiques pour une section qui est pourtant réputée produire des documents non publiés, à savoir les contrôles organiques. Alors voilà, nous avons des rapports assez volumineux, comme celui que nous avons consacré à l'infectiologie, à Condorcet, à l'Institut de France. Nous avons également des référés, assez nombreux, et bien entendu, l'audit flash que nous avons réalisé pour l'instant et la fameuse note structurelle dont on dira un mot tout à l'heure, qui sont venus, je dirais, augmenter notre potentiel de communication publique depuis quelques temps. Un mot sur l'année 2022. Nous sommes en train de monter une évaluation en cours d'évaluation d'une politique publique portant sur la stratégie française en matière d'intelligence artificielle, naturellement dans le scope ESR. Une enquête à portée évaluative qui est porteuse du cycle thématique dont je vous parlais tout à l'heure, ESR et territoire, qui est d'ailleurs sous le pilotage d'Emmanuel. Un cycle de contrôle organique d'université qui seront sans doute liés en grande part, en tout cas, à ce thème annuel. Je pense que nous allons lancer une enquête sur les universités et les questions environnementales, écologiques. J'espère pouvoir monter une enquête sur les financements européens cette année, contrôler un organisme de recherche comme tous les ans, et, aux surprises, initier pour la première fois des contrôles du MR. C'est M. Dehan qui peut le confirmer, puisqu'il est la première victime, si j'ose dire, de cette nouvelle forme. Il serait plutôt la première co-victime, puisque, évidemment, c'est le secret des UMR, c'est que la Cour ne les contrôlait pas jusqu'à présent, parce qu'une UMR n'existe pas. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Toujours est-il que nous avons lancé cette fois-ci, mais sous la forme qui respecte la procédure, c'est-à-dire que nous notifions à autant de tutelles qu'il y a de tutelles dans une UMR, deux UMR qui ont été choisis, alors là, pour le coup, je dirais, sur un mode de raisonnement qui ne relève pas de signalement de quoi que ce soit, puisqu'il y a aussi, dans ce type de démarche, quand on les commence, un besoin pour la Cour d'apprendre elle-même à monter ce type de contrôle et à pouvoir les rendre au fil du temps économe de vos moyens, des nôtres, etc. Au total, sur une année comme l'année 2022, nous contrôlons 6 universités. Certaines que nous achevons, l'instruction ayant eu lieu l'année dernière, d'autres que nous menons en 2022 et d'autres que nous commencerons dans les trimestres. Alors un mot, si vous le permettez, sur ce fameux nouveau régime unifié de responsabilité des gestionnaires publics. Je ne vais pas pouvoir vous faire l'exégèse de ces travaux pour la raison la plus simple du monde, c'est que le décret n'est pas sorti. Il faut donc être un peu patient. Tout ce que l'on sait au vu de l'ordonnance du 23 mars, c'est que c'en est fini du fameux DB. La somme que l'agent comptable public devait reverser dans sa caisse pour la restituer, c'est la fin de la Cour de discipline budgétaire et financière. Et donc la Cour devient la seule juridiction qui aura à connaître et à instruire sur ces dossiers de responsabilité des gestionnaires publics. Il s'agit donc d'un contentieux dont on ne peut pas dire qu'il n'existait pas, mais qui est désormais canalisé et qui portera sur la notion de faute et le contentieux sur sa notion de sanction, la Cour étant amenée, s'il y a sanction, non plus à demander une reconstitution de la caisse, mais à prononcer une ou des amendes, dont l'ordonnance a d'ores et déjà fixé le seuil. Elle ne pourra pas excéder 6 mois de salaire. C'est une bonne nouvelle, puisque dans les normes antérieures, c'était 1 an, celle de la CDBF. Voilà, la prescription a elle-même été fixée à 5 ans, 10 ans pour la gestion de fête. Et cette procédure, qui est applicable à partir du 1er janvier, en fait, couvrira toutes les affaires en cours aujourd'hui. Donc il y a un effet légèrement rétroactif sur cette disposition. Voilà, et je passe en revue très, très rapidement, parce que je vous laisse imaginer que ce sera beaucoup plus raffiné, le type de faute que nous pourra repérer, la faute grave avec préjudice, significatif, dit l'ordonnance. Seule la jurisprudence pourra permettre d'y voir plus clair. Octroi d'un avantage indu, faute de gestion, inexécution des décisions de justice, la gestion de fête et l'engagement irrégulier de la dépense. Avec plaisir. Ah oui, pardon. Naturellement. Il y aura appel, formation de l'appel à la Cour et une formation de cassation à l'extérieur de la Cour, comme aujourd'hui. Ah non, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance, c'est à voir avec le décret, mais je crois pas. Non, c'est ça.
C'est une amende.
Un mot peut-être sur notre activité, sur notre champ universitaire. Voilà, je vous ai fait un petit rendu statistique depuis 2012. Donc, sur 10 ans, nous avons effectué 50 contrôles d'université. On va dire 44 universités, en fait, puisque quelques-unes ont été contrôlées 2 fois.
Elles le méritaient.
Alors, je vais préciser, soit il y en a une ou deux qui le méritaient, soit il y a eu la nouvelle procédure qui a été mise au point il y a 2 ans ou 3 ans par notre section du rapport de suivi. Le rapport de suivi, c'est tout simple, on prend un contrôle qui a 5 ou 6 ans, les recommandations, on les rappelle à la loi et les suites à donner, on revient dans l'université et on fait le point. Il s'agit de contrôles qui ont une vocation à être brève. Et si ma mémoire est bonne, c'était le cas à Strasbourg. C'était un contrôle de suivi. Ah ben ça. Et voilà. Donc voilà. Il ne faut pas non plus voir qu'elles le méritaient toutes. Il s'agit aussi d'une nouvelle démarche qui consiste à faire passer le message suivant aux universités. On revient. Un petit schéma, encore un peu de statistiques. Ce tableau vous montre que... Alors cette fois-ci, les chiffres sont plus les mêmes que sur le diapo précédent, puisque je commence en 2014 pour me faciliter la vie. Voilà, depuis 2014, 33 organismes de recherche, 43 universités. Vous voyez les grandes écoles qui ne sont pas oubliées, enfin les grandes écoles et assimilées. Pas mal d'enquêtes, évidemment. Et autres, ce sont... toute une série d'organismes qui ne sont ni université, ni grande école, ni ONR, mais qui sont très nombreux, les CROUS, les chancelleries, l'Institut de France, etc. Au total, vous voyez en bas que le contrôle universitaire, leur contrôle organique des universités représente sur la durée la moitié de notre charge de travail. Et vous voyez également que la moyenne du nombre de recommandations par rapport sur une université, c'est 9 recommandations en moyenne. Le chiffre maximal que j'ai retrouvé étant 12, ça reste assez limité. Les rappels à la loi, qui ne sont pas des recommandations, puisqu'un rappel à la loi est naturellement ne peut pas prendre la forme rhétorique d'une recommandation, il s'impose. Donc ils font l'objet d'un tableau à part. Vous voyez là aussi que il y en a pas mal. La moyenne est de 7, ce qui est plutôt raisonnable, mais vous voyez qu'il y a parfois des sujets d'inquiétude, puisqu'il arrive que certaines universités aient 25 rappels à la loi, ce qui est là un petit signal rouge. Nos principales suites que je vais essayer de dérouler dans le sens des aiguilles d'une montre et qui vous donnent par ailleurs sur cette camembert la manière dont on procède quand on contrôle un établissement universitaire ou d'enseignement supérieur, stratégie et gouvernance, formation, la formation continue, la recherche, le service aux étudiants, évidemment les procédures financières, la qualité des comptes qui n'est pas tout à fait la même chose, les marchés, les ressources humaines en dépenses, les ressources humaines en gestion, le numérique et le patrimoine. Le nombre de pourcentages qui figurent sur ce camembert et n'est pas le pourcentage du nombre de pages que nous consacrons à ces sujets dans un rapport, plutôt le nombre de recommandations, les deux pouvant être parfaitement déconnectés. Il nous arrive de faire une analyse assez complète de la situation financière et si elle est bonne, il n'y a pas lieu de faire de recommandations. Et je vous signale quand même sur la durée la montée en puissance de certaines recommandations, notamment dans le domaine patrimonial. Je pense aussi que nous avons une montée en puissance de nos recommandations dans le domaine SI, puisque désormais on ne fera quasiment plus jamais un contrôle organique d'une université ou d'un établissement sans l'accompagner d'un audit DSI, vu par la Cour, naturellement. Je passe rapidement sur les enquêtes, vous les connaissez toutes, qui viennent s'ajouter aux statistiques que je vous ai présentées il y a quelques instants. Et si vous le permettez, Jean-Michel, on peut maintenant, sauf à ce que vous souhaitiez qu'on fasse une pause pour discuter de cette première approche.
Je propose qu'on fasse...
Je vous rends voilà. La main, et puis après on reviendra avec Emmanuel, je te donnerai la parole, Emmanuel, sur la note.
On va faire un deuxième temps sur la note structurelle, mais là, il y a une présentation quand même assez complète et qui, d'ailleurs, a déjà appelé quelques questions. Donc peut-être, si dans la salle, en vous présentant à chaque fois, c'est toujours important pour vos interlocuteurs, des questions sur l'état des lieux et du fonctionnement de la troisième chambre qui a été présentée par Philippe Rousselot.
D'un point explicite d'un ordre du jour de ce conseil. Et
signal au recteur par rapport au directeur de conseil d'administration, de façon à ce qu'il puisse faire pression pour ce que, effectivement, ça va être bien d'un point au jour au conseil. Mais c'est vrai qu'il appartient au président de diffuser en tablant sur le fait que les membres de son conseil ne diminueront pas de manière plus encore. Obligé de te dire ce que la.
Ce qui est peu probable.
Et en même temps, oui, bien sûr. Et en même temps, moi, j'ai vu là beaucoup d'inconvénients à ce que le rapport soit conservé. Alors, vous parlez de ça, c'est dans le domaine de l'université, ça ne concerne pas personne. J'avais vu, par exemple, dans le domaine de la culture, où un responsable d'établissement utilisait en conseil des arguments du conseil, et les prendre une personne qui disait, voilà, vous êtes, et on ne sait même pas de quoi vous parlez, et là, c'est absurde.
Oui.
Qui faisait une synthèse à sa main du rapport, en arrangeant l'histoire comme ça du conseil. Donc, c'est pas, je trouve que ce n'est pas une solution satisfaisante. La solution satisfaisante, elle serait d'abord celle qu'on suggère, c'est au minimum une diffusion du conseil, et au minimum une discussion du rapport en conseil. Après, pourquoi la Cour dit ça? C'est parce que généralement on n'est pas un petit peu vigilant. C'était notamment le cas sous l'emprise des textes juridiques, des textes qui encadraient les rapports juridictionnels, parce qu'il fallait faire un rapport de gestion qui donnait l'impression qu'on préjugeait la responsabilité du comptable dans le cas où des régularités auraient été constatées, qui ouvraient une instance. Respecter les droits de la contradiction et de la défense. Avec le système qu'on a mis en place, c'est vraiment avec des champs d'instruction, des champs de jugement. La problématique du jugement et de la contradiction, c'est l'instance du jugement. Et donc je pense qu'on ira vers ça. Il faudrait que les textes évoluent. De toutes les façons, on prend des précautions, généralement d'anonymisation d'un certain nombre d'observations. Et je ne vois pas comment on peut avoir un système électif, notamment au sein des universités, et ne pas respecter ce qui est quand même l'information de ces instances délibérantes. On paraît, pas démocratique. Mais on y viendra, mais pour l'instant, les textes nous obligent à faire le rappel de cette mention de précaution que le document doit en lui-même, en tout cas, il est formellement respecté.
À ma connaissance, ni vous ni personne ne dispose encore de l'outillage complet permettant de s'organiser. Donc, une fois de plus, je crois que c'est une affaire de patience en attendant la sortie des textes réglementaires. Donc, il faut espérer qu'ils sortiront avant le 31 décembre. On s'organisera à ce moment-là. Et comme vous le voyez, à part lire devant vous l'ordonnance du 23 mars, je vois pas... C'est-à-dire ? Et tous ceux qui les tutelles.
Et les tutelles.
Et les tutelles, hein, puisque là, tout le monde, toute personne qui a connu une éventuelle irrégularité, la couverte ou même la connaître, sera appelé à devoir se justifier. Donc, oui, la liste des personnes justiciables de ces nouvelles dispositions devrait être arrêtée avec précision, à la fois par des textes et après par la jurisprudence. Là, je crois qu'il y aura...
Vous ne considérez pas que vous avez déjà
Bien sûr, c'est ce que j'allais lui dire maintenant, Michel.
Valérie Gibert, Université de Strasbourg.
J'y vois quand même un intérêt, c'est que il y a pour l'instant un équilibrage qui n'est pas complètement, me semble-t-il, satisfaisant dans les diligences que mène l'AFA. Nous sommes une juridiction, nos investigations se font avec des pouvoirs d'enquête, mais aussi avec un droit de contradiction. Et je pense que ça regardera aussi un peu les choses, pour l'AFA qui est là pour faire la préconisation, pour aider. À faire un contrôle qui amène une structure dans un système qui est encore un peu flou. Donc l'entrée de la Cour des comptes, elle est aussi quelque chose qui doit être perçu comme avec des règles plus claires d'un point de vue de la recherche, de l'administration de la preuve et des lois de contradiction.
Merci. Merci.
Aujourd'hui, on va remettre un peu quand tu as des choses qui commencent à sortir, tu vas mettre de réfléchir. Et la question qui se pose, me semble-t-il, très fréquente, elle est celle de la délégation de signature et de ce genre d'ailleurs. Traditionnellement, dans la jurisprudence, il était considéré que c'était celui qui donnait la délégation qui conservait la responsabilité de l'acte signé par celui à qui la délégation, par celui à qui la délégation était exercée. Le CNRS applique cette délégation de signature de façon identique à ce que nous avons l'établissement. L'INSERM a décidé de former des centres de responsabilité au sein de ces délégations. Et donc, la manière dont nous avons désormais réfléchir, et comme l'application est au 1er janvier, je fais là une parenthèse, il y a, semble-t-il, une petite polémique que vous allez pouvoir nous éclairer là-dessus, sur le fait que les comptes qui n'ont pas été jugés et qui le seraient postérieurement au 1er janvier pourraient appliquer ce nouveau système de responsabilité pour la période hantée de 2023. Au motif
que... Ce que j'ai dit tout à l'heure.
Oui, je parle bien de la totalité d'ailleurs de passement, ce qui sera jugé entre le 1er janvier 23 et l'intervention du juge. Voilà, et donc je termine ma question sur la problématique de la responsabilité de la signature. Est-ce qu'avec cette nouvelle réforme, on considérera que c'est celui qui a signé qui sera recherché comme gestionnaire
du responsable? Alors
à la délégation de signature antérieure, c'est-à-dire qu'on remontera au président. Au passage, je rappelle que les élus de la République sont exonérés de ces poursuites, et pas nos élus, qui sont des élus de l'établissement, et restent donc des agents du type gestionnaire. Dernière question qui n'a rien à voir, de l'ordre de la visite, qu'il y avait également chez vous. Est-ce qu'il y a eu des lanceurs d'alerte? J'aimerais savoir s'il y en a de temps en temps, si c'est juste pour mémoire.
Bien. Philippe Rousseau, vous répondez pour qu'on puisse après passer à la seconde séquence structurelle ou Emmanuel.
Alors peut-être sur la problématique de la délégation de signature, c'est évidemment une question qui se posera. Pour l'heure, nous n'avons, sauf erreur de ma part, absolument aucune indication puisque cela ne relève pas des textes qui ont été pris, puisqu'on rentre déjà dans un niveau de détail. On peut simplement, à mon avis, raisonner par analogie. D'abord, en faisant bien la différence entre délégation de signature et de compétence, c'est quand même une différence basique en droit. Donc l'une amène effectivement que le délégataire conserve sa responsabilité et l'autre fait que la responsabilité bascule du côté de celui qui bénéficie de la délégation. Donc il faut bien voir dans quel cadre de signature on est au départ, et il y a souvent une espèce de flou artistique autour de ça qui fait qu'on ne sait pas vraiment. Et une fois qu'on a passé ce cap, on peut s'en référer à ce qu'on connaît par ailleurs en responsabilité administrative, c'est-à-dire que le juge va chercher en réalité où se situe réellement le niveau d'erreur et s'il y a une responsabilité directe du délégataire ou si celui qui a délégué sa signature pouvait ou pas être mis dans la boucle à un moment donné pour qu'on embarque sa responsabilité. Donc pour moi ça ne sera pas automatique. Je pense qu'on sera vraiment sur du cas par cas, mais il ne faut pas écarter le fait que parfois il y aura peut-être des partages de responsabilités, parfois il n'y aura que la responsabilité du délégataire de signature. En tout cas, il faut, à mon avis, il ne faut pas laisser le chef d'établissement systématiquement en dehors de la problématique dès lors qu'il délègue sa signature. Je pense qu'il faut l'alarmer là-dessus.
Philippe Rousseau, un dernier mot avant de passer à la...
Sur les lanceurs d'alerte, je vous disais tout à l'heure que nous allons ouvrir, la Cour va ouvrir une plateforme. Au mois de juillet, si ma mémoire est bonne, donc c'est vraiment pour demain. Et donc pour répondre, on verra bien ce que ça donne. Encore faudra-t-il bien cerner, mais ça c'est pas notre affaire, c'est l'affaire de la Cour et de son secrétaire général, le concept de lanceur d'alerte avec ses droits, la protection qui lui est due, etc., et toute la norme internationale européenne qui entoure ce type d'activité. À distinguer naturellement de ce qui fait parfois qui fait régulièrement l'objet de l'attention de la Cour, qui sont des lettres de dénonciation. J'en reçois un certain nombre assez régulièrement. Quand je dis dénonciation, le mot est un peu rapide.
Signalement.
Voilà, il y a de tout. Il y a la dénonciation au sens, je dirais, étymologique du terme. Avec une variété de styles et de hauteurs de vue que je vous laisse deviner. Voilà. Donc ça nous change. Le lanceur d'alerte est susceptible de nous changer agréablement de ce type de démarche, même si, hormis les lettres illisibles, nous en tenons compte
à chaque fois.
Bien, merci. Donc, de toute façon, cette question des gestionnaires publics va revenir dans les mois qui viennent. Je pense que la DGS aura l'occasion d'y revenir, peut-être avec les agents comptables d'ailleurs, qui sont en séminaire, je crois, la semaine prochaine. Emmanuel Roux, on avance maintenant sur, oui, Philippe Rousselot, sur la note structurelle qui a tant fait parler. Donc faites-la parler maintenant.
Un mot sur cette note structurelle avant de rentrer sur le fond. Il s'agit d'un... Ce qui est très important à dire, parce que ça va de soi, mais ça va peut-être mieux en le disant, ce n'est pas une enquête et ce n'est pas un rapport. C'est une note. Et à ce titre, elle échappe aux contraintes que je vous signalais tout à l'heure de la procédure de base qui s'impose pour une enquête ou un rapport. Et c'est la raison pour laquelle, dans sa première formulation au moins, les notes structurelles n'ont pas donné lieu à notification, elles n'ont pas donné lieu à contradiction et elles n'ont aucune recommandation. Ça, c'est un point qui a peut-être échappé au lecteur. Un mot sur la manière dont on a travaillé. Il y a eu deux rapporteurs. Il y a eu... deux assistantes de vérification qui nous ont aidés au début, un très grand nombre d'entretiens dans le monde universitaire afin de recueillir des idées, mais surtout de tester une partie de nos idées. Le contrôle qualité, c'est pas parce qu'on n'a pas suivi la procédure qu'il n'y en avait pas, a été extrêmement sévère, je dirais, sur notre papier. On a écrit au moins une dizaine de fois le texte. On c'est Emmanuel et moi. On a été tenu de présenter un dossier dont la taille est inversement proportionnelle à celle de la note. Avec deux obligations qui nous étaient faites. La première, c'est que cette note ne devait pas sortir du chapeau, elle devait sortir de 15 ans de travail. Des tableaux que je vous ai montrés tout à l'heure. Voilà, on a contrôlé 5 universités, et alors ? 50 universités, et alors ? Qu'est-ce qu'on en retire ? On a travaillé comme ça, on a repris une très grande partie de notre production ancienne, et sur cette base-là, qui est naturellement une base dynamique, puisque, comme vous l'avez compris, on ne s'arrête jamais de contrôler des universités, on a fait tout le temps. Donc on arrive à suivre les évolutions et à prendre le pouls des établissements. La deuxième contrainte qui a été non négociable, c'était la brièveté du texte, qui ne devait pas dépasser une vingtaine de pages. Vous avez tous compris que la note structurelle sur l'enseignement supérieur, c'est 1/15. Il y en a eu sur la culture, sur l'enseignement scolaire, sur l'énergie, sur les transports. Et sur le fond, il s'agissait de quoi ? Eh bien, de proposer un état des lieux et une ouverture prospective. Je crois que de tous les rapports que j'ai pu écrire ou co-écrire dans ma carrière, c'est celui qui a le titre le plus réussi. Parce que, à la limite, tout est là. Tout est dans ce titre. Ce que, une fois de plus, et à ma grande surprise, certains lecteurs... ce que nous disons sur l'analyse prospective, c'est 2030. Donc, il s'agit d'une réflexion assez inédite. Pour nous, en tout cas, de réfléchir à 10 ans. Partant du principe un peu banal que dans 10 ans, le monde aura changé, et du principe un peu moins banal que s'il changeait conformément à nos souhaits, ça serait peut-être mieux. En d'autres termes, est-ce que le monde change avec nous comme spectateurs, ou est-ce qu'il doit changer avec nous comme acteurs ? Est-ce que cet avenir, on veut que ce soit le nôtre ? C'est ça la note structurelle. c'est regarder beaucoup plus loin que d'habitude, avec comme seul parti le parti de l'autonomie. Je ne dis pas que nous sommes des autonomistes à la Cour, je dis que c'était l'idée qui a servi de ligne rouge, de fil rouge, pardon, à notre travail. Vous avez sans doute remarqué depuis quelques mois que dans beaucoup de textes qu'on lit dans AEF ou News Tank tous les jours, même dans votre blog, si la mémoire est bonne, un mot qui revient de manière très très répétitive et très solennelle et très marquée, c'est le mot confiance. Vous l'avez sans doute remarqué. Ça, c'est un mot qui revient dans un très grand nombre de documents. Eh bien, je dirais que cette note structurelle, c'était pour la Cour l'occasion de dire qu'elle vous fait confiance. Voilà. Je pense que s'il n'y avait pas cette notion de confiance de la Cour pour le monde universitaire, il n'y aurait pas eu la note. Ou alors elle aurait été radicalement différente. D'où plus de liberté, plus de responsabilité. Je vais passer assez rapidement, mais quand même, sur la première partie, qui ne m'a pas paru être la partie de la note qui appelait le plus de réactions, même si de temps en temps, une ou deux expressions ont pu paraître un peu rapides. Le président vous l'a dit tout à l'heure, quand on taille un haïku, c'est très difficile de le rendre immédiatement harmonieux. Et c'est vrai qu'Emmanuel et moi avons eu beaucoup de difficultés à la fin à concilier la nécessité de t'écrire en français et d'aller au bout d'une idée, parce que voilà, la brièveté a quand même de très fortes contraintes. Alors, sur le bilan, on a présenté une analyse dont l'autonomie et l'étudiant sont le fil rouge. On a essayé, en effet, vous l'avez sans doute remarqué, de remettre l'étudiant au centre de la réflexion. On a remarqué depuis 15 ans cette avalanche de textes, à partir de la LRU, qui nous a beaucoup impressionnés dans nos travaux, dans notre vie quotidienne, et qui finalement aboutit à ce que j'appelle dans cette diapo une obscure clarté, pour emprunter à une formule célèbre. Parce que c'est vrai que l'appareil réglementaire, législatif et réglementaire, est devenu tellement énorme et ouvre tellement de choix aux uns et aux autres, la loi de 2013... l'établissement expérimental, enfin, qu'on se trouve dans une situation qui nous a paru d'une complexité presque insurmontable. Et encore, je ne parle ici que des textes d'organisation. Si on parle maintenant des modes de financement, c'est la migraine assurée, y compris pour ceux dont c'est le métier d'essayer de comprendre. Voilà. On a eu évidemment une partie de l'analyse sur la pression démographique et la stratification sociale qui lui est associée. On a remarqué qu'il semble aujourd'hui que dans un tel contexte, il est très difficile pour un étudiant d'être autre chose qu'un inscrit. En tout cas, on ne sent pas dans les universités que nous contrôlons le sentiment d'avoir rencontré des étudiants qui seraient le fameux alumni à l'américaine. On a vraiment le sentiment, conforté par nos visites sur place et le dialogue qu'on a avec les uns et les autres, que l'étudiant qui a une relation de son université qui serait la relation qu'on peut avoir avec sa mère nourricière est encore complètement à construire. Voilà, des avancées notables en matière d'autonomie, naturellement, mais des marges qui restent étroites. L'immobilier, gigantesque. C'est les universités ont le premier immobilier de l'État public, mais elles n'en sont pas propriétaires dans des proportions considérables. Donc, il y a eu très peu de dévolution et il a paru à la Cour que ça pouvait être contradictoire avec le concept d'autonomie. La gouvernance des universités, là aussi, on remarque, il y a beaucoup de progrès, mais on propose de noter qu'elle mériterait sans doute d'être davantage professionnalisée. ce que disait le président Gauthier tout à l'heure sur la différenciation à l'œuvre entre les différents types d'universités et tous les classements qui ont joué un si grand rôle ces 10 dernières années dans l'appréciation du champ universitaire et qui nous a paru, les classements nous ont paru quand même très très orientés sur la recherche comme facteur discriminant plutôt que l'étudiant ou sa réussite. Le questionnement sur les universités opérateurs de recherche, cette notion d'université opérateur de recherche qui doit avoir 4 ans. La première fois que je l'ai lu, c'était dans une audition d'un président d'université bien connu à l'Assemblée nationale et qui a tapé du poing sur la table ce jour-là en disant « Messieurs les députés, les universités sont des opérateurs de recherche ». Et depuis, cette expression a fait florès et je la trouve intéressante. Et enfin, le problème du financement qui marquait la fin de notre premier bilan. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un déficit. Mais ce qu'on comprend le mieux, c'est qu'on ne sait pas de combien. On n'arrive pas à le calculer. Alors, chacun y va de son nombre de milliards. On ne sait pas comment, si jamais on avait ces milliards, on ne saurait pas encore très bien par quels moyens les distribuer, pour la bonne raison que quand on voit aujourd'hui le mécano des ressources disponibles pour les universités, on voit bien qu'il y a beaucoup d'argent, mais qu'il y a beaucoup d'éparpillement. Et à la fin, il manque beaucoup de milliards, mais pourquoi au fait? Pour dépenser quoi? En vue de quoi? Voilà, c'est là-dessus que se terminait notre bilan, qui nous a paru, quand on l'a écrit et délibéré à la Cour, relativement honnête, relativement juste. Il souffre peut-être de formules un peu ramassées ici ou là, et ça, je l'admets bien volontiers. Mais globalement, on n'a pas trouvé sur ce bilan matière à très très forte contradiction, à l'exception peut-être du paragraphe consacré à la recherche, qui a entraîné quelques réactions syndicales, mais qui tenait davantage, je crois, à la formule un peu rapide, qui était celle que vous avez reprise vous-même sur le site de la DGS, lorsque la Cour parle d'une organisation illisible. Le maire, c'est vrai que la phrase juste, ça aurait dû être illisible pour la Cour. Voilà. On est ravis que ce soit lisible pour vous. Et nous, on aime bien vous faire partager l'idée que pour nous, ça n'allait pas vraiment. Voilà, Emmanuel, je te passe la main.
Oui.
T'as le micro.
Donc du coup, une fois que le bilan a été fait, l'exercice de la note structurelle nous a amené à nous projeter, puisque faire le bilan, c'est une chose, mais avoir des propositions, c'en était une autre, avec une série de propositions donc qui avaient pour particularité, comme Philippe l'a dit il y a un instant, de s'appuyer sur les travaux qui avaient déjà été faits par la Cour, c'est-à-dire que ça ne tombait pas du ciel, c'était des synthèses des travaux antérieurs qui étaient mises bout à bout et qui permettaient justement de se projeter vers autre chose. L'idée, c'était aussi d'être un peu disruptif, ou parfois peut-être de dire tout haut ce que certains disaient tout bas, puisque nous avons quand même alimenté notre réflexion, y compris sur la partie prospective, de très nombreux entretiens qui ont été menés, de plusieurs personnes, et il est vrai que chaque fois, ce que nous avons écrit était aussi le reflet de ce que nous entendions sur le terrain. Donc, trois pistes ont été envisagées, en rappelant, et c'est le chapeau de la deuxième partie, que, et j'ai repris la phrase parce que ça nous semble très clair, il s'agit d'une perspective où la progressivité, l'expérimentation et le volontariat ont toute leur place. Donc, il ne s'agit pas de plaquer des décisions toutes faites, parce qu'on voit l'exercice un peu facile, mais d'imaginer des évolutions à 10 ans dans lesquelles certains pourraient s'inscrire sans forcer qui que ce soit. Donc, on revient bien sur ce thème qui a été maintenant largement utilisé et usité, celui d'expérimentation, parce que ce vers quoi on va peut faire l'objet d'expérimentation, ça est là, et on a bien conscience que la pluralité du territoire étant ce qu'elle est, on ne peut pas plaquer les mêmes décisions partout, c'est une évidence, mais parfois, ce qu'on propose ici peut fonctionner, alors que ça ne fonctionnera pas ailleurs. Donc, trois pistes sont envisagées, favoriser une plus grande autonomie de gestion des universités, faire de l'université un lieu de réussite et de vie pour les étudiants, et enfin assumer et maîtriser les différences entre universités, puisque là aussi, à l'évidence, il faut arriver à ce constat que le terme université, j'y reviendrai dans un instant, n'est plus tout à fait celui qu'on entendait en 1984 avec la loi Savary. Donc, tout ça résumé sous la forme d'une fleur ou d'un ensemble qui place l'université autour de l'ensemble de ses missions stratégiques, information, recherche, innovation, insertion professionnelle, vie étudiante, documentation, qui ferait que demain, peut-être, l'université serait au cœur de la vie étudiante et de l'évolution de l'enseignement supérieur en France. C'était un petit peu aussi l'objectif que nous avions dans cette note structurelle. Alors, au niveau du premier axe, une plus grande autonomie de gestion des universités, nous revenons sur 5 points. Alors, avec, là encore, et il faut le rappeler, c'est ces difficultés de rédaction que nous avons eues, il fallait être extrêmement synthétique, brasser énormément d'idées et essayer d'arriver avec des propositions qui, en même temps, étaient compréhensibles par tous, et y compris par le grand public. Nous avons la tradition à la Cour des comptes de dire que nos rapports doivent être compris par tout le monde, par n'importe quel passant de la rue Cambon. Donc, il fallait vraiment être pédagogique. Mais le... Après, je vous laisse imaginer qui est le passant de la rue Cambon, mais bon, quoi qu'il en soit, l'aspect pédagogique fait que parfois on y perd en précision ou on y va un petit peu, entre guillemets, à la hache. Et c'est vrai que les propositions tombent de manière un peu définitive alors qu'elles mériteraient sans doute de la nuance, et c'est ce que nous essayons d'apporter depuis que la note est parue, justement ces éléments de nuance pour bien comprendre ce qu'on voulait dire. Donc au niveau de la plus grande autonomie de gestion des universités, eh bien d'abord, nous allons vers l'idée d'une réforme du dispositif d'allocation des moyens, c'est-à-dire une remise à plat des contrats d'établissement, et là pour reprendre les adjectifs qui sont employés dans la note, qui sont considérés comme creux et dénués de contraintes, c'est un constat ça aussi. Mais alors vers quoi aller? Eh bien peut-être vers un contrat pluriannuel de moyens, puisque cela aussi c'est rappelé régulièrement par les universités, le manque de lisibilité qu'elles ont sur une seule année à construire un projet qui par ailleurs s'inscrit dans le cadre de mandat quinquennal, donc ça semble une évidence. Alors après il y a des petites contraintes budgétaires et en particulier celle de l'annualité qui existe, mais en tout cas on peut quand même espérer ou voir une évolution arriver. Également faire du contrat un véritable outil stratégique, donc revenir également sur l'idée d'évaluation du travail de l'université, la question étant de savoir qui doit mener cette évaluation, on connaît la place du HERS, et qui doit en traduire les conséquences, et là aussi le débat est ouvert. Avec cela, bien sûr, la problématique des financements, Philippe faisait allusion tout à l'heure, c'est bien beau de constater, c'est une évidence, qu'il manque de l'argent pour les universités, mais où trouver les nouveaux leviers? On propose quelques pistes, les droits d'inscription, mais nous avons une position très tempérée qui s'appuie sur un rapport qui date de 2015 et qui a été de 2017 et qui a été largement dans le détail des différents scénarios d'augmentation de droits d'inscription. Une autre hypothèse, c'est celle du plafonnement du contrat impôt recherche, le CIR, et puis éventuellement autoriser les universités à créer tout type de filiales. Ça fait partie aussi des propositions que nous avons dans la note. Deuxième point également, évoqué au niveau de l'autonomie de gestion des universités, de nouvelles marges de manœuvre. Hein, donc, comment trouver de nouvelles marges de manœuvre en matière de RH? Alors, je vais peut-être passer. Voilà, on est toujours sur la même diapo. Au final, que constate-t-on? Eh bien, que les universités n'ont pas la main en termes de recrutement. Et l'idée est peut-être d'ouvrir plus largement les compétences des chefs d'établissement et des universités pour qu'ils aient la main. Alors, sans rentrer dans les détails de ce que nous proposons, mais nous nous interrogeons sur les hypothèses de simplification de procédures de recrutement, en ce qui concerne les BIAST, en ce qui concerne les enseignants-chercheurs, ce qui revient évidemment à s'interroger aussi sur le rôle des instances nationales et en particulier le rôle du CNU, mais qui a été par ailleurs aussi interrogé dans le cadre de la LPR. Troisième point, une meilleure reconnaissance de la recherche produite par l'université. Là encore, nous avons employé, Philippe le disait tout à l'heure, ce constat d'organisation illisible des UMR. Comment simplifier, comment rendre plus lisible le fonctionnement des unités mixtes de recherche? Eh bien, peut-être en réfléchissant sur la possibilité de déléguer la gestion de manière pleine et entière de ces UMR aux universités. Et donc en finir avec la logique de co-tutelle, nous avions conscience de tout ce que ça peut amener comme conséquence, donc c'est une idée mais qui est tellement comment dire disruptive dans son organisation qu'elle nécessiterait des semaines, des mois, des années sans doute de mise en place, parce qu'il y a après la problématique de la RH derrière et en particulier de la problématique des chercheurs. Que faire des chercheurs dans ces conditions qui sont affectés à l'université? Faut-il les détacher? Faut-il les rattacher à l'université et imaginer désormais un statut qui s'apparenterait à celui pour les chercheurs des enseignants-chercheurs? Les pistes étaient ouvertes. En tout cas, nous avons pensé à cette évolution dans la note. Une autre problématique sur laquelle nous revenons, c'est celle de la formation des équipes de direction, puisque là aussi, tout le monde est conscient pour reconnaître que piloter une université relève d'un travail de spécialiste, de connaisseur. L'élection amène que parfois se trouvent à la tête des universités des élus qui ne maîtrisent pas tous les leviers de la gestion, pas tous les leviers, toutes les spécificités du pilotage. Donc, il serait peut-être utile de les former en amont, de créer un véritable vivier et du coup de positionner ce que ça intéresse au sein des universités pour justement prendre ces compétences-là. Nous nous interrogeons sur le rôle de l'INSP justement pour faire cela. Cette idée, elle n'était pas nouvelle, elle a déjà été exploitée, mais nous avons tenu à la rappeler, nous avons voulu la rappeler parce qu'il nous semble vraiment essentiel peut-être de professionnaliser un peu plus encore le pilotage des universités par ce biais. Et puis, évidemment, ça ne nous a pas échappé. Nous proposons de renforcer le rôle des DGS également, et y compris en revenant sur les problématiques statutaires des DGS. Enfin, nous appelons à généraliser la dévolution du patrimoine, à le valoriser. Alors là-dessus, le législateur nous a directement ou indirectement, je ne sais, entendu avec la loi 3DS du 21 février 2022, puisqu'on a ici des leviers qui reviennent justement sur la possibilité de valoriser le patrimoine, et entre autres avec l'outil SPLU, une société publique locale universitaire, qui est une réponse déjà à ce que nous écrivons dans la note. Le deuxième grand axe sur lequel nous revenons au niveau de la note se pose sur l'étudiant, puisque comme Philippe le disait tout à l'heure, nous avons voulu faire de l'étudiant, centrer également notre réflexion autour de l'étudiant. Trois grandes propositions ici sur cette partie consacrée à l'étudiant. D'abord, peut-être réfléchir toujours plus sur l'offre de formation au sein des universités. Comment faire en sorte pour que cette offre de formation soit phasée avec le monde du travail, sans l'emprisonner autour de ça, mais la travailler toujours, la remettre en cause, cette offre de formation, de manière permanente. C'est un matériau vivant qu'il faut réinterroger systématiquement. Ici, c'est un paramètre essentiel. Faire basculer les formations en apprentissage. D'ailleurs, là-dessus, la Cour sortira dans quelques semaines une enquête sur l'apprentissage, justement, et y compris dans l'enseignement supérieur, qui rappelle ce que l'on sait déjà, c'est-à-dire le boom de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Mais c'est un chemin sans doute vertueux qu'il faut continuer à suivre. S'appuyer également sur le levier stratégique de l'enseignement à distance. Alors, la crise sanitaire nous a donné en grandeur nature ce que donnait un enseignement à distance généralisé. Ça n'est pas la panacée universelle, tout le monde en est conscient, mais on peut peut-être venir à des formules mixtes d'innovation pédagogique qui permettent accessoirement aussi des économies de fonctionnement. Donc on peut repenser l'offre de formation à travers aussi l'enseignement à distance, dès lors qu'évidemment on a les infrastructures qui permettent de le porter à grande échelle. Et enfin, dernier axe, lié cette fois à la vie de l'étudiant, comment créer un véritable sentiment d'appartenance au sein des universités. Nous employons l'expression de bien-être. Comment apporter une forme de bien-être de l'étudiant au sein des universités, comment créer ce sentiment, comment aussi augmenter cet après-vie universitaire en renforçant les réseaux d'alumni au sein des universités. Bien là aussi, nous avons quelques propositions. L'idée passe autour de la création d'un guichet unique, peut-être, c'est-à-dire que l'université soit la seule interlocutrice des étudiants et tous les leviers de la vie étudiante. Et nous nous interrogeons, entre autres à ce niveau-là, sur la place des CROUS et sur la possibilité qu'auraient les universités à travailler de manière encore un peu plus rapprochée des CROUS, peut-être. Mais là aussi, c'est une proposition, évidemment, qui mériterait d'être très largement instruite, en fidélisant certains ou en intégrant certaines compétences des CROUS de manière directe, chacun ayant là aussi sa position là-dessus. Et je pense que c'est un point sur lequel, si vous voulez, nous pourrons revenir. Enfin, dernier axe que nous développons dans la note, assumer et maîtriser les différences entre universités. Là aussi, c'est un secret de Polichinelle, je le disais tout à l'heure, que ce serait une erreur d'affirmer que les universités aujourd'hui forment un tout unique en tant que tel sur le territoire. Il y a une différenciation de plus en plus marquée, chacun la reconnaît, et elle est exacerbée aujourd'hui avec les nouveaux outils dont on dispose depuis l'ordonnance de 2018 et la création des établissements publics expérimentaux. Donc comment faire ici pour considérer cet ensemble qui s'appelle université, mais qui n'a plus tout à fait les mêmes fonctions, qui n'a plus tout à fait les mêmes finalités non plus, mais qui, chacune, ont pour vocation d'accomplir une mission de service public. Nous sommes partis d'un autre constat, le président Gauthier en parlait tout à l'heure, c'est qu'il est nécessaire au sein des universités de se poser plus encore sur la réussite étudiante et d'adapter peut-être encore un peu plus le travail travail des universités pour améliorer la réussite étudiante. Cela amène nécessairement à s'interroger sur la logique du bac plus 3. Et cette logique de bac plus 3, amenée au fait qu'il y a une différenciation entre établissements aujourd'hui, nous a permis de nous interroger sur la problématique des collèges universitaires, non en tant que structure, mais en tant qu'organisation au sein d'une université. Certains établissements, d'ailleurs, ont mis en place des collèges universitaires. On a l'exemple de Saclay, par exemple, qui l'a mis en place déjà depuis quelques années. Et l'idée était de se dire que si l'on crée une plateforme qui, par facilité, pourrait s'appeler au collège universitaire ou autrement, et qui aurait pour vocation d'accueillir l'ensemble des formations post-bac à niveau plus 3, y compris celle des lycées, et c'est sans doute aussi une proposition extrêmement disruptive, c'est-à-dire faire venir au même endroit toutes les formations du plus 3, qu'elles soient à l'université ou dans les lycées, pour créer un vivier commun et pour créer une espèce de symbiose entre ces formations qui peut-être pourrait tout en bénéficier, serait une solution. Et de ce constat, eh bien, d'en tirer peut-être aussi une conclusion, c'est que certains établissements pourraient évoluer sur le renforcement de cette mission, et s'ils le souhaitaient et s'ils voulaient se positionner dans une logique territoriale qui serait aussi une logique de site et sans doute articulée avec d'autres établissements et à lire de manière un peu plus macro, devenir eux-mêmes, mais cette fois de façon structurelle, des collèges universitaires. Mais il faut bien comprendre qu'au départ, notre idée, c'était plutôt, elle partait plutôt d'un côté matériel, c'est-à-dire regrouper les formations, plutôt que de créer ex nihilo de nouveaux établissements qu'on appellerait collèges universitaires, parce que ça n'était absolument pas l'idée que nous avions. L'idée, elle était plutôt vraiment autour du rapatriement de l'ensemble des formations Bac plus 3 dans ce sens. Nous terminons l'aspect prospectif avec une petite focale sur la place des collectivités territoriales, puisque en particulier les régions chefs de file de l'ESR semblent encore un peu éloignées, pour ne pas dire certaines très éloignées, de la vie quotidienne de l'université. Il manque peut-être des outils au sein des régions pour organiser l'ESR dans la région et faire vraiment des régions un pilote stratégique. Sans doute en travaillant plus avec les collectivités territoriales, sans donner de nouvelles compétences immédiatement aux régions, mais peut-être les faire exister plus au sein justement de l'ensemble universitaire et en faire des interlocuteurs toujours plus présents dans la vie des universités. Voilà très brièvement brossé les propositions vers lesquelles nous avons souhaité aller, sachant que à l'arrivée, Philippe, je crois que tu as quelques mots de conclusion par rapport à ça.
Oh, non, je crois qu'il va laisser la place à la parole. L'idée, c'est que l'exercice a paru très bénéfique à commencer pour nous, parce que prendre du recul sur tant d'années d'événements aussi denses concernant le monde universitaire, ça nous a intéressé d'y consacrer un moment de réflexion, de même que nous a beaucoup intéressé l'idée d'avoir un peu de courage pour, je ne dirais pas rêver à haute voix, mais ne pas céder à l'idée qu'on verra bien ce qui se passera demain. On pourrait aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, se dire que l'avenir n'est pas forcément quelque chose qu'on subit, c'est quelque chose qu'on peut construire. Tout ça assis sur le sentiment que les universités ne sont pas en situation d'échec, mais plutôt en situation d'avoir peut-être l'occasion de chercher un second souffle pour aller un peu plus loin dans les voies ouvertes par la LRU, au moins au plan général, au plan conceptuel. Naturellement, l'autonomie est un terme qui mériterait peut-être qu'on s'y arrête un jour, mais peu importe ici les difficultés du lexique. L'idée, c'est bien que l'université doit être peut-être, mériterait peut-être d'être plus responsable sur un modèle qui, indépendamment des querelles de comparatives et comparatistes, est plutôt le modèle international. Nous citions dans notre note, et je le regardais encore hier, le baromètre de l'Union européenne des universités. Bon, c'est assez intéressant de lire les raisonnements qu'on y tient et la place de 24e de la France sur 30, qui est quand même un signe. Alors, naturellement, ça ne va peut-être pas dire grand-chose, mais c'est au moins un signal qui nous invite à réfléchir. Voilà. Alors, moi, la question qui reste en suspens, c'est est-ce que vous, ça vous a intéressé ? La deuxième question, c'est faudrait-il en refaire une autre sur d'autres sujets ? C'est pas moi qui y répondrai, naturellement, puisque ça, ce sont les rapporteurs, eux, se mettent au service d'une commande qui vient ou qui ne vient pas. Et voilà, je pense aussi que Il y a dans cet exercice une forme d'humilité de la Cour. On fait notre bilan. On dit voilà à peu près les idées qu'on peut mettre sur la table, qui ne sont absolument pas des recommandations. Si une idée est très mauvaise, mais qu'elle peut en faire naître une autre, je serais totalement ravi. Voilà.
Peut-être juste aussi un détail ou un dernier point. Cette note, c'est une forme de teaser, finalement, de ce qui peut venir après, et puisque certains d'entre vous sont venus m'indiquer que nous laissions des délais un peu courts sur les questionnaires que nous envoyons, pour ceux que je suis allé voir et que les collègues de l'équipe sont allés voir sur l'enquête université et territoire que nous sommes en train de mener, comprenez bien que cette enquête revient sur des pans entiers de la note structurelle et les instruit justement. Donc nous avons lancé les idées et ensuite nous voyons après et nous adaptons, et puis voilà, l'enquête et tout l'appareil qu'elle amène peut nous amener sur certains points à confirmer ou au contraire à infirmer ce qui a pu être écrit dans la note.
Merci à tous les deux. Bah, pour lancer ce débat, moi j'ai une question, mais après la parole sera à la salle évidemment. Vous parlez d'un nouveau souffle, d'un deuxième souffle pour les universités. Comment voyez-vous un deuxième souffle pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, quel que soit son périmètre? Parce que tout compte fait, on le sait, pour fréquenter quand même pas mal ces communautés, on sait que c'est ce sujet qui en permanence irrite France Université, enfin tout le monde, les DGS au quotidien, c'est la place, le rôle, le fonctionnement de la tutelle, qui est un peu indissociable de l'autonomie des établissements que vous préconisez. Voilà, c'était pour lancer la discussion.
On avait médité avec Emmanuel de consacrer un paragraphe ou deux à ce sujet, et puis on a fait marche arrière parce que c'est quand même très compliqué. Et il ne s'agit pas du tout de critiquer le ministère. Il est évidemment plus que nécessaire. L'autonomie ne peut pas se faire indépendamment de financements qui viennent du ministère. Vous connaissez la formule, qui paye commande. Et moi, j'ai toujours cru. Donc, il ne s'agit pas de dire que le ministère donne de l'argent en fermant les yeux. Déjà. Donc, l'avenir du ministère, pour moi, c'est une relation éclairée avec les universités qu'il finance, dans des proportions telles qu'il en est l'actionnaire principal et qu'il a des droits. Droit de regard, et que les universités, plus elles sont responsables, plus elles doivent être en situation de rendre compte. Ça, c'est une notion essentielle. Alors, Emmanuel et moi avons passé quelques-unes des idées qui figurent dans la note, mais la redevabilité, c'est totalement central, et notamment la capacité aujourd'hui déçue, en tout cas à nos yeux, de connaître les coûts de l'université. Combien coûte une université ? Ça, c'est un sujet central, puisque le jour où on saura répondre à cette question, on pourra peut-être se demander combien on lui donne. Alors, ce que je dis là, c'est une formule, évidemment. Mais on voit bien que la relation du ministère avec l'université, vue par nous, en tout cas, vue par la Cour, qui a quand même un angle d'attaque réduit, qui va à tous les aspects de la recherche et de l'enseignement supérieur, c'est d'être en mesure de... d'allouer les bonnes ressources aux universités et de leur permettre, peut-être par un appareillage réglementaire adapté, de capter par ailleurs d'autres ressources. Mais cette allocation de ressources ne se fera pas à l'aveugle, je répète, il faut connaître les coûts, et elle ne peut pas se faire non plus en l'absence de ce que suggérait tout à l'heure Emmanuel, par le rétablissement d'un vieux machin qui marchait très bien, qui marchait peut-être trop bien, qui était le contrat d'objectifs et de moyens, dont on nous a dit un jour que c'était très gênant pour l'État de s'engager, au prétexte qu'il y a une annualité budgétaire. Ça n'interdit pas de s'engager contractuellement sur des moyens pluriannuels. On les a ou on les a pas, et si on les a pas, le contrat est mort. Et voilà. Tandis qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on les a pas et le contrat continue. C'est pour ça qu'on l'appelle de performance. Et donc, je crois que le ministère ne mérite pas de critique particulière, bien au contraire. Franchement, mais sans doute un métier très difficile, très technique, où là aussi, la Cour, qui connaît très très bien ses correspondants ministères, ne peut qu'observer beaucoup de progrès au fil du temps, beaucoup d'approfondissements. Et donc, voilà, sous cet aspect-là, je crois que ce sont plutôt des... C'est pas tellement l'avenir du ministère qui compte que l'avenir de ses relations avec ses recteurs, avec les universités et les établissements. C'est quoi une tutelle ? Il faut de temps en temps savoir s'arrêter et reposer ce genre de questions, y compris dans le cadre de la discussion qu'on avait tout à l'heure sur la responsabilité financière des gestionnaires publics. Voilà, je verrai plutôt le second souffle dans l'amélioration de la relation fondée sur une confiance n'excluant pas le contrôle. Ça, on ne peut pas confondre l'autonomie avec le laisser-aller, d'autant plus lorsqu'on est responsable devant le gouvernement de dépenser le programme 150 et le programme 231. Là, il faut savoir rendre des comptes, et donc il faut que les universités aient elles-mêmes matière à redevabilité. Et ça, je pense, c'est une grande partie d'amélioration de l'avenir, parce que quand ça sera fait, les idées plus chic et plus élégantes seront plus faciles à mettre en œuvre.
Alors, Emmanuel Roux voulait dire un mot, et après Gwenaëlle Vercheur.
Simplement, oui, pour dire qu'on a identifié, Philippe vient de le dire, les problèmes que tout le monde connaît avec le ministère, la problématique de l'allocation des moyens. Et un mot qui revient souvent, c'est celui de l'illisibilité aujourd'hui du dispositif d'allocation des moyens, qui a des sources tellement diverses qu'on n'arrive plus à comprendre. Et là, les enquêtes de terrain nous permettent de le mettre en avant. Et une autre piste qu'on n'a pas vraiment développée dans la note structurelle, mais qui est évoquée rapidement et peut-être sur laquelle on reviendra, c'est la logique de déconcentration de la décision aussi. Ça n'est pas nouveau, mais Philippe en parlait à l'instant. À la place des recteurs de régions académiques, des recteurs délégués à l'ESRI, dans le cadre du dialogue de stratégique de gestion, ce que vous êtes en train de vivre actuellement, peut-être les prémices de quelque chose qui pourrait se renforcer et qui pourrait aussi aller vers des compétences plus affirmées du recteur en termes de, je parle du recteur de région académique, en termes d'allocation des moyens. Donc ça, voilà, ça fait partie des hypothèses, des idées sur lesquelles on peut revenir, mais tout ça mérite bien sûr d'être instruit.
Gwenaëlle Vercheur. Il y a un sujet en ce moment qui irrite beaucoup.
Si la DGRH aujourd'hui a bien pris en compte et pris le tournant de l'autonomie des universités. Et c'est pas le sujet de l'allocation des moyens qui est réel. Mais aujourd'hui, moi je suis un petit peu étonnée de voir ce qu'on nous demande jusqu'à faire remonter des choses qu'on ne devait pas faire remonter jusqu'à présent.
Oui, ça ne nous a pas échappé. Alors, par contre, quand je dis allocation des moyens, ils ne sont pas que financiers dans mon esprit. C'est l'allocation des moyens réglementaires, humains, financiers, etc. Donc, c'est cette relation-là, je vois bien. Après, si vous êtes 72 à écrire toute la journée à une personne rue Descartes, ça va être la thrombose. Donc, il y a aussi ce qu'on disait avec Emmanuel, il y a peut-être une procédure de dialogue, c'est pas.
Le dialogue, il a lieu. Hein. Le dialogue, il a très bien lieu avec le recteur de région du Nord, parce que je connais, donc, mon établissement et la région de France. Et c'est peut-être pas le même cas
en banlieue. Banlieue de la banlieue.
La ministre ou le prochain ministre de devoir jouer avec plusieurs directions.
recherche, de la recherche, donc la DGRI ne fonctionne pas comme la DGCIP, la DGRH, la DAF, enfin toutes les. Et la DSI, et puis, enfin c'est plus la DSI d'ailleurs, c'est la direction numérique, et puis Bercy, maintenant, qui s'y met, parce que le problème de l'annualité budgétaire, il est. Enfin, c'est un problème qui est complètement nul. Enfin, on peut très bien avoir une disposition et avoir, ce que vous disiez tout à l'heure, une programmation pluriannuelle et jouer avec l'annualité budgétaire. Enfin, je veux dire, ceux qui mettent ça en avant sont des gens qui n'ont pas compris ce que voulait la nouvelle réforme, enfin, la nouvelle réglementation financière. Et puis, c'est pour ça que je pense quand même que dans votre note, il manque cet aspect-là.
Écoutez, merci de nous le faire remarquer, mais moi je pense le contraire. Je vais vous dire pourquoi, parce que évidemment, il manque un ou deux paragraphes, je veux bien le dire. Mais d'une part, c'est un sujet qui est déjà qui viendrait en plus de celui que nous avions traité, c'était l'autonomie des universités. Donc le traiter en deux paragraphes, c'est un peu rapide. Et deuxièmement, et pour tout vous dire. Je crois que ce fameux deuxième souffle, ou ces 10 années qu'on a devant nous, si on veut, ou si vous voulez qu'elle corresponde à quelque chose de nouveau, de allant vers plus d'autonomie, de responsabilité, vous pourrez réformer le ministère autant de fois que vous voudrez. Non, je crois que ça passera pas. Je crois que l'acte 1, c'est les universités, et l'acte 2, le ministère s'adaptera. Et non pas le contraire. Parce que ça, si c'est vous qui devez vous adapter au ministère, vous ou n'importe quel autre portefeuille gouvernemental. C'est...
Alors, il y a Jérôme Paré. Oula, les mains se lèvent. Donc, levez tous sa main que je repère. Oula, bon. Alors, je commence par Jérôme. Voilà.
Son rôle d'actionnaire principal, je pense qu'il y a la difficulté. Là, la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui et qui est spécifique à la DRH, c'est que non seulement il dit combien, mais il dit comment très précisément on doit l'utiliser. Et c'est ça qui aujourd'hui nous met dans des niveaux de difficulté.
Frédéric Dehan, et après il y a deux personnes, hein, voilà, en haut. Et puis après il y a Vincent.
Donc ça veut dire que, d'après vous, les 3 premières années en université produisent de la recherche.
Non, mais ça veut dire que l'enseignement universitaire doit être irrigué, dispensé par des enseignants-chercheurs, pour utiliser des vocables bien usuels dans leur milieu, être un peu adossé à la recherche, et effectivement, dès la licence, et dès notamment la 3e année de licence, vous avez en Angleterre, il va falloir que vous ayez dit, dès la 3e année de licence, les jeunes, moi, à titre personnel, j'ai aussi des collègues qui viennent, commence à faire de la recherche en L3. Il commence à faire de la recherche et de façon tout à fait sérieuse en L3. Et je crois que considérer qu'un enseignement universitaire qui ne soit pas totalement pleinement adossé irriguée par des enseignants-chercheurs, on n'est plus, on est dans autre chose. On est dans autre chose, on est dans, dans la réponse à un besoin intellectuel, on est dans la rationalité économique, vous l'avez dit, vous avez raison. Voilà, on a un enseignement universitaire qui est ventilé, comme dirait Maudière, de façon neuve, entre les lycées, les universités, les écoles d'ingénieurs, etc. Donc, voilà. Et puis, le risque aussi, et je m'arrêterai là, qu'on peut y voir dans la création de ces collèges universitaires, c'est de renforcer d'une certaine manière aussi un aspect négatif en termes d'aménagement du territoire, c'est de renforcer, et je ne vais pas aller plus loin, la métropolisation, etc., dans un certain nombre de régions, avec des gros centres universitaires à vocation et à possibilité mondiale, enfin, du moins, c'est de le faire, que ce soit sur Paris, Bordeaux, Marseille, Strasbourg, ailleurs, et effectivement, peut-être d'autres établissements qui auraient une autre dimension. Voilà.
Sans doute. Ça, c'est un sujet. Alors peut-être, c'est un sacré sujet même. Peut-être d'abord sur ce que, pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, notre idée, ça n'était pas de créer des collèges universitaires ex nihilo, c'était d'imaginer un endroit où on rapatriait toutes les formations du bac plus 3. Et dans la mesure du possible, que cet endroit soit peut-être au sein des universités, donc y compris avec les formations post-bac des lycées. Donc c'était ça l'idée au départ. Et maintenant, de se dire que si cela fonctionnait et que l'établissement trouve de l'intérêt à renforcer cet aspect-là, parce que ben, la prégnance recherche est moins importante au sein de l'établissement, parce qu'il a moins de financement pour sa recherche, parce qu'il y a aussi des paramètres qui font que, on sait très bien qu'il y a des universités qui ont plus de difficultés à financer leur recherche que d'autres. Donc ça fait partie des évolutions qu'il faut. Il serait très hypocrite de nous considérer qu'elles n'existent pas. Il faut imaginer vers quoi ça peut tendre. Et c'est là où on vient à quelque chose de plus organique, de plus structurel, avec une transformation, mais qui viendrait du terrain. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de plaquer ce modèle où que ce soit. Parce que par mes fonctions passées, je connais un petit peu le problème aussi, hein. Forcément. Mais l'aspect RH nous a pas échappé, bien sûr. Si vous avez un collège universitaire qui n'a plus de recherche, qu'est-ce que vous faites des enseignants-chercheurs? Alors après, il y a deux réponses. D'abord, il faut partir du constat que vous avez quand même aujourd'hui, c'est une réalité, vous le savez très bien, un certain nombre de licences qui sont beaucoup pilotées par des prac PRCE, qui sont très présentes. Donc il faut pas s'imaginer qu'on a 100% d'enseignants-chercheurs partout, parce que ce serait une erreur colossale. Et je crois bien qu'à l'époque de la création des emplois Fioraso, l'invitation qui était celle du ministère, c'est lorsqu'on ouvrait les postes, de faire du second degré principalement. Donc on a beaucoup armé quand même les licences avec ça, un. Et deux, après, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, il faut raisonner dans une logique territoriale, c'est-à-dire par forme de campus ou par regroupement de thématiques, de vraiment de pôles. Et là, vous pouvez répartir peut-être la formation en identifiant un endroit dans le cas d'une région donnée, par exemple, dans le cas d'un bout de région donnée, je n'en sais rien, qui focalise plutôt sur la formation plus bac plus 3, et qui donc tend plus à faire du collège universitaire, mais vers laquelle des enseignants-chercheurs peuvent aussi aller tout en travaillant avec des collègues du secondaire, et en ayant face à soi un public qui n'est pas tout à fait celui qu'on connaît actuellement, puisqu'il est renforcé par, encore une fois, le post-bac des lycées. Donc on n'est plus vraiment dans la même configuration, mais je pense que c'est un modèle qu'on ne doit pas tout de suite écarter en disant ça n'est pas possible. Il faut peut-être l'imaginer. On est encore une fois à 10 ans. Alors 10, 15, 20 ans, j'en sais rien, l'eau coulera sous les ponts. Mais voilà, l'idée encore une fois de la note, c'était de lancer ce type d'idée au loin.
Vincent Moreau.
Partez au départ du fait que vous ne souhaitez pas forcément l'université à deux vitesses, alors que, 10 lignes plus loin, l'instauration de cette mesure peut y conduire mécaniquement. Alors après, c'est une question de point de vue. Moi, je trouve que votre idée est très honnêtement très intéressante, donc je serais plus, vous êtes un peu moins critique que Frédéric, mais quelque part, il faut l'assumer jusqu'au bout. Donc, est-ce que la note ne fait pas complètement?
D'accord. Et je suis d'accord. Alors ça peut être une critique autocritique pour nous, et puis ça peut être aussi le reflet de la vraie vie. C'est qu'à un moment donné, il faut savoir concéder à la réalité le fait qu'on ne fera pas tout à fait dans tel département ou dans telle région ce qu'on va choisir de faire. Parce que vraiment, je crois que la clé de toute chose, c'est que plutôt que d'avoir... Enfin, il faut des idées générales, il faut ouvrir des pistes bonnes ou mauvaises. Une fois de plus, de la friction des pistes peuvent naître. Mais fondamentalement, je crois que l'avenir des universités, c'est l'avenir de chacune d'entre elles, pour énormément. on n'a peut-être pas assez dit ça non plus, c'est à quel point chaque université devrait avoir aujourd'hui son projet de vie à 10 ans, qui ne se construit pas en deux jours, d'ailleurs. Une fois qu'elle a ça, après, il doit s'intégrer avec ses autres partenaires, les collectivités, les organismes, les autres universités, le ministère, etc., les étudiants. Et donc, en fait, beaucoup des réponses viendront du fait que, finalement, on ne fera pas tout à fait la même chose ici que là, parce que la bonne solution, elle est toujours dans le fait qu'elle a été trouvée localement. Voilà. Je ne sais pas si je botte en touche en répondant à cette question, mais de cette manière. Mais je suis bien d'accord avec vous. Et on n'a pas été tranchant, mais c'est peut-être parce que ce ne serait pas bien de l'être non plus.
Du coup, si, en fait, ce qui m'avait interpellé pour continuer le débat là-dessus, c'est que j'ai dû relire un instant ce paragraphe-là, parce que vous associez ça à un déversement de financement, une réallocation de moyens de KHR. Mais pour moi, ça ne peut se faire que si les universités qui, elles, ont une intensité en recherche gardent des moyens pour cette intensité en recherche. Donc j'avais l'impression que votre logique, elle n'était valable pour augmenter le niveau moyen de financement que vous jugez probablement, théoriquement trop bas par ailleurs, que pour des universités qui mettraient trop d'argent dans une recherche qui, par elle-même, aurait peu d'espérance. Et donc, est-ce que c'est bien ça votre raisonnement? Parce que dans des universités intenses en recherche, je vois mal, alors qu'elles manquent d'argent pour financer la recherche de haut niveau qu'elles veulent porter à l'échelle mondiale, prendre de l'argent là pour en remettre sur le collège universitaire. Je m'imagine peut-être, c'est peut-être extrêmement polémique ce que je veux dire, dans des universités qui pourraient resserrer au contraire un peu leur spectre de recherche pour réinjecter dans les collèges en question, quitte à assumer la différence. Et est-ce que c'est ça le raisonnement implicite que vous faites?
Philippe, je parle sous ton contrôle, mais je pense qu'on a constaté aussi qu'il y a des universités qui ont de plus en plus de mal à financer leurs recherches. Ça part plutôt de ça, à mon avis. C'est-à-dire qu'elles, comme la recherche est sur financement compétitif pour la plupart des cas, elles n'arrivent plus tout simplement à emporter les appels à projets. Et donc, du coup, il y a un trou dans le financement de la recherche. C'est pas parce qu'elles veulent avoir des moyens qu'elles mettraient ça ou là, c'est qu'elles n'ont plus les moyens, justement. Donc, c'est une façon de répondre à ce constat. Simplement, enfin, je pense que enfin, c'était l'idée que nous avions, hein, Philippe, hein, sauf erreur de ma part. Donc, c'était plutôt ça, notre raisonnement, au départ.
En tout cas, la formation ne doit pas être sacrifiée pour la recherche et réciproquement. Et de ce fait, quand on parle de déficit, quand on n'arrive pas bien à calculer le montant, c'est fondamentalement celui de la formation. Et donc, une fois de plus, une fois qu'on aura mieux répondu à cette question, je dirais peut-être une fois qu'il y aura une LPE, on répondra plus facilement à votre question.
Faut rappeler quand même que la tonalité générale des rapports, dont la note prospective, c'est quand même un refinancement des universités. Sans trahir, même si se pose le problème de l'allocation des moyens, la philosophie de la Cour depuis des années, c'est de dire qu'il y a quand même un problème de financement.
La Cour dit qu'il y a un problème de financement, un problème de connaissance des coûts, et en tout état de cause, que ce ne serait pas raisonnable d'augmenter les financements si les universités ne donnent pas toutes les garanties de la meilleure organisation possible avant de... Voilà. Il y a eu en tout cas des errements sur la masse salariale, il y a eu des errements sur la gestion du patrimoine, et ici et là, et quand on les cumule, avant de demander plus, il faut d'abord donner des assurances, et donc c'est une dialectique, peut-être une trialectique, on va dire, entre plusieurs considérations. On ne peut pas dire que tout se résume à un besoin de financement. C'est un besoin de financement recontextualisé dans un effort plus général.
Madame en haut, alors j'ai pas bien vu parce que j'ai la lumière. Quelqu'un avait levé la main. Bonjour. Et puis après, il y a...
Thank you. analyses de l'autonomie des universités selon les pays, avec effectivement la France mal placée, mais je dirais avec un coefficient très élevé de la question du fonctionnaire. C'est-à-dire que le fait qu'on ait des fonctionnaires plombait dans le classement par pondération de cet aspect-là, alors qu'il y a fonctionnariat, est-ce qu'on en sait ? Enfin, voilà, avoir des fonctionnaires, on va forcément avoir toutes les contraintes que nous avons dans notre profession. Je voulais savoir, comme vous avez fait cette remarque, en fait, on était très mal placés en Europe, je pense que vous pensiez de cet aspect-là.
Oui, alors c'est vrai que bon, c'est comparaison. Enfin, en droit, on a toujours l'habitude de dire comparaison n'est pas raison. Et c'est vrai que quand on regarde les critères de comparaison sur la notion d'autonomie, ça, c'est une notion qui est tellement différente en fonction des États où on se trouve que c'est un côté forcément très artificiel. Oui, ça peut pondérer ou faire chuter la France dans son classement parce que le statut de fonctionnaire semble être opposé au principe d'autonomie, alors même que le statut des anciens chercheurs, entre autres, est un statut qui garantit aussi en soi une autonomie. Et qui par ailleurs n'empêche pas l'autonomie. On peut tout à fait avoir un statut de fonctionnaire et être autonome. Mais voilà, apporter effectivement dans la logique des classements internationaux, c'est pas forcément une nuance parce que c'est quand même très français ça comme approche. Et qu'ailleurs, je veux dire, c'est de la contractualisation, hein, les enseignants chercheurs ou les chercheurs. Donc forcément, je pense que ça devrait peut-être être pondéré, mais je pense qu'on ne sait pas le faire en fait, tout simplement. Mais oui, la remarque a du sens, oui.
Parce que l'offre de formation, elle est souvent vécue non pas comme quelque chose de vivant qui doit s'adapter aux besoins des métiers du territoire, mais comme une logique plutôt de répartition de services, un peu territorialisée, qui fait qu'effectivement c'est souvent dépassable. Parce qu'effectivement, l'évaluation de la mission et du métier passe souvent par la recherche, et la formation est un petit peu au second degré. Donc finalement, je me demande si pour accompagner ça, il n'est pas nécessaire qu'il y ait aussi une réforme complète du statut d'enseignant-chercheur, de l'évaluation des missions, de la reconnaissance des missions, et peut-être pour stimuler aujourd'hui un monde qui vit difficilement. En tout cas, dans mon établissement, je le constate, avec une certaine forme d'harassement, de sentiment de ne plus comprendre son métier, ou d'être quelquefois, finalement, une espèce de numéro dans une grande usine qui est en perpétuelle évolution.
Et votre remarque, qui est plus une remarque qu'une question, je trouvais très stimulante elle-même, et repose certainement sur le fait qu'enseignant-chercheur, c'était déjà compliqué à comprendre, mais c'est fini. Maintenant, on est enseignant, chercheur, administrateur, et en fait, on n'est pas avec deux métiers, mais avec plusieurs, dont deux seulement sont payés. Voilà. Votre remarque en est donc d'autant plus fondée. Effectivement, la réflexion qui doit être évidemment collective, et la Cour là-dedans n'a pas rien d'autre à faire que d'écouter aussi, semble s'imposer dans l'avenir. Oui, ce serait une très bonne chose qu'il y ait une réflexion et des suites données à cette réflexion dans ce domaine du statut et de la mission sociale.
Alors c'est vrai que la LPR commence à apporter des débuts de réponse quand même à cela, mais effectivement on a le sentiment qu'on demande à l'enseignant-chercheur d'être approprié sur tous les fronts et sur des segments qui sont très particuliers entre eux. Enfin, on parle beaucoup par exemple de développer la formation continue, c'est un métier la formation continue. Un enseignant-chercheur, il n'est pas forcément tourné sur les attentes professionnelles de manière très fine, systématiquement. Donc il y a aussi un travail à faire pour se mettre à ce niveau-là. Pareil pour l'apprentissage, on accompagne, on incite à l'apprentissage, il y a une vraie révolution qui, je pense, s'installe dans les universités. Mais à quel prix ? Au prix de quel investissement ? Donc oui, on en est tout à fait conscient de cela. Oui.
D'autres questions ? On va devoir arrêter à 12h20. Vincent Moreau, et alors avant peut-être... Allez-y.
Vous avez parlé, il y a un point important, la réussite de France comme
qu'en est-il de l'étudiant consommateur finalement de l'enseignement supérieur? Quelles sont les pistes envisagées à bilan dans un monde qui bouge de l'étudiant consommateur en fait de l'université?
Alors, on entend quoi par contre? On va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis trop longtemps, mais par le mot consommateur, c'est quoi? C'est celui qui vient, qui s'inscrit un peu partout, qui picore, c'est ça? Ou...
Soit c'est parce que je suis en état d'anémie très avancé, soit je pense qu'on a c'est la question que vous posez, c'est une question qu'on n'a pas fouillée.
Non, pas forcément, parce que c'est un concept qui est délicat à envisager, quoi. C'est vrai que selon comment se situe le consommateur, ça peut être plutôt positif ou plutôt négatif en matière de formation. Après, je pense que, enfin, si la question consiste à dire comment est-ce qu'on fait pour répondre au plus vite aux attentes d'insertion professionnelle des étudiants, c'est un peu ça. Je crois que, enfin, là, pour le coup, les mentalités ont beaucoup évolué à l'université et le corps enseignant est tout à fait investi de ses missions d'insertion. Enfin là, j'en parlais tout à l'heure, nous sommes sur le terrain depuis des mois pour l'enquête université et territoire. La question de l'insertion professionnelle revient systématiquement dans la parole des établissements et des enseignants-chercheurs. C'est-à-dire que maintenant, c'est une évidence qu'il faut connecter les deux et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on réfléchisse son offre de formation justement sur l'insertion professionnelle en ayant des études très fines du territoire et sur ses capacités d'absorption justement sur le territoire de tel ou tel type de formation. Donc je crois qu'il faut observer ce qui se passe dans les universités, faire confiance aussi dans le corps enseignant pour adapter au maximum et se tourner au mieux vers justement cette logique d'insertion pour y répondre. Donc espérons que l'étudiant consommateur, si c'est dans ce sens-là, trouve son bonheur à l'université, comme il peut le trouver ailleurs aussi, hein, mais que l'université soit aussi pour lui une réponse tout à fait appropriée et qu'il l'intègre tout de suite.
Deux dernières questions, Vincent Moreau et Jérôme Paré.
On a vu sous une forme un peu institutionnelle, parce que sinon la réponse n'a pas de sens, on a vu la CPU qui nous a fait l'honneur de passer nous voir à la cour. L'accueil, je pense que vous le connaissez, puisque vous avez vu le cinquantenaire et que le premier président de la Cour des comptes est venu lui-même parler de cette note. Et puis, les échos qu'elle a trouvés au cours de cette journée sont manifestes. On ne peut pas dire qu'on a eu un dialogue institutionnel avec le ministère, mais nos relations quotidiennes, aussi, ou presque, avec lui, nous laissent penser qu'en tout cas, il a accordé une certaine importance à cette note. Les organismes de recherche, oui, ça les a intéressés, mais pour un ou deux paragraphes, et par définition, on ne pouvait pas après... Voilà, je dirais que globalement, toutes nos relations avec nos partenaires concernant cette note ont été plutôt de très bonne qualité. Naturellement, chacun a son mot à dire ou à redire, mais globalement, plutôt un bon accueil.
Et le CNUS aussi a été vu. Hein.
Ah, voilà. Et donc, le CNUS et le CNUS ont eu l'occasion de publier.
Oui.
de publier leur point de vue sur...
Ils se sont exprimés, oui.
Comment ?
Ils se sont exprimés, oui.
Ils se sont exprimés sur la chose, y compris la directrice générale.
Oui. Ah, oui. Dernière question, Jérôme, et après on doit y aller.
On entend de plus en plus parler d'un développement accéléré de l'enseignement supérieur privé, et on voit que certains exécutifs régionaux prennent comme option de le favoriser et d'y consacrer des moyens.
Avec prudence. Emmanuel Mehdi, il parle, répond.
Alors, c'est la prudence sera dictée par le fait que c'est un sujet que nous abordons dans le cadre de l'enquête en cours qui est frappée par le secret de l'instruction, et que nous étions dans vos locaux il n'y a pas très longtemps aussi, me semble-t-il. Donc c'est une discussion que nous avons déjà eue. C'est un constat, un objectif. On aura des chiffres hein, dans l'enquête qui expliquent la croissance effectivement de l'enseignement supérieur privé, du nombre d'étudiants qui augmente. Voilà. Après, la Cour Philippe et le président Gauthier l'ont dit tout à l'heure, elle n'est pas là pour dire les choses, elle est là pour les constater, à la limite proposer des scénarios. Mais si on se rend compte qu'en ce qui concerne l'université, les étudiants qui sont dans une université privée, une formation privée, sont très nombreux, et qu'on est dans un niveau d'encadrement qui est un peu balbutiant ou pas très clair, ou une espèce d'entre-deux qui finalement n'est pas très satisfaisant, c'est peut-être un sujet, effectivement, par rapport auquel l'État devra se confronter de manière peut-être un peu plus directe et imaginer les réponses qu'il faut y apporter. Je veux pas être langue de bois, hein, mais je peux pas préempter sur ce qu'on va écrire non plus. Les chiffres parleront. Voilà. Quant à 10, 15 ans, on verra la courbe. Ben on va constater quelque chose, forcément. Donc ensuite, voilà, quelle décision prendre par rapport à ça.
Bien, merci donc pour cette matinée. Merci à Emmanuel Roux et Philippe Rousselot pour ces présentations. Vraiment, nous allons approfondir un sujet qui peut parfois fâcher sur la gestion des UMR cet après-midi, avec un débat intéressant. Et je vous invite, pour ceux qui doivent aller au restaurant, à la Grande Mosquée. Sans ça, la salle sera fermée, donc vous pouvez laisser vos affaires. Voilà. Merci beaucoup.
Cet après-midi. Oui, j'arrive. C'est ça, non, cet après-midi. Moi, je veux bien. Moi,